Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Deux heures de découverte, d'infos, de bonne humeur, c'est l'équipe est sauvage de Mathieu Noël, entourée d'invités, de journalistes aussi, les journalistes de la rédaction d'Europe 1, lesquels chaque après-midi de la semaine s'affrontent dans une compétition pour décrocher le titre de chroniqueur du jour avec un sujet captivant. Et pour compter les points, eh bien on peut compter sur Eva Rock. Durant cette première heure, Jérôme Lacroix nous racontera l'histoire absurde d'une équipe de foot obligée de marquer des buts contre son camp pour éviter des amendes. Autre histoire, celle que nous rapporte Eve Roger. Il sera question de couple et de dons de gamètes. Emmanuel Duteil nous emmènera au Japon et du côté des invités, nous retrouverons le dessinateur et réalisateur Johan Sfar, l'humoriste Baptiste Le Caplain et tout de suite Vincent Delerme. C'était lors de l'émission En Public.
Quand je vais citer son nom, le public du studio Merlin devrait normalement pousser un immense hurrah admiratif vu qu'il n'est ni plus ni moins le vice-chef adjoint délégué du service culture d'Europe 1. Voici Mathieu Charrier. Ouais. Mathieu qui est aussi le monsieur cinéma de la station et dont l'expertise cinématographique m'est d'un grand secours lorsque j'interview un réalisateur comme Pef. Si jamais j'arrive au bout de mes questions, je sais que je peux me tourner vers lui et qu'il va m'aider, fort de sa connaissance encyclopédique du cinéma français, bon sauf évidemment quand il s'est assoupi.
Alors que le métier de cinéaste, c'est aussi peut-être de faire péter la bombe qu'on a dans le bide ou dans le cœur, quoi. Et
Mathieu Charrier, vous avez été touché par le film comme j'ai pu l'être.
Oui.
Et pour un animateur, c'est vraiment inestimable.
Faut prévenir.
Un journaliste comme ça qui peut m'aider à tout moment. Alors Mathieu, comment comptez-vous l'emporter aujourd'hui?
Et je voulais vous parler d'un compte Twitter qui s'appelle Radio Agnès. Je pense que c'est pour ça que vous avez confondu sur les podcasts tout à l'heure.
Oui, j'ai dit une bêtise.
Parce que ses enfants, Mathieu Demi, son fils, tous les jours tweetent une petite phrase de l'époque d'Agnès Varda. C'est-à-dire une petite phrase que sa maman disait dans la vie. Alors c'est des petits moments de vie à la Agnès Varda. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la banalité du quotidien, ce qu'elle a toujours filmé, avec la poésie qu'on lui connaissait. Par exemple, la toute première qui a été postée le 3 avril, quelques jours après sa disparition. Il a écrit « J'ai cru bien faire ». Ça fait une belle pierre tombale, je trouve. Et puis, il y en a comme ça tous les jours. Alors, je vous les cite au hasard. Hein. « On était un peu nuls, mais on riait ».
Ça, on pourrait presque l'appliquer.
C'est une jolie phrase, je trouve, assez poétique. « En fait, pour la télé, tu sais, on a fait une version. Moi, j'étais pas emballé, mais ça faisait de l'argent quand même. » Bah oui, finalement, pourquoi s'embêter? Il y en a une autre aussi que j'aime beaucoup et qui résume bien l'univers d'Agnès Varda. « Je sais pas toi, mais moi, ma vie est très visuelle. » Effectivement, quand on voit à quel point sa caméra est représentée ou remplacée ses yeux. Je dis, on a une autre que j'aime bien. Jacques Demy avait acheté une décapotable. Elle consommait 6 fois plus que les voitures françaises. Mais il a été heureux, finalement. En 1951, rue Daguerre, vous savez, c'est où ils habitaient, où il y avait leur société de production. En 1951, rue Daguerre, il y avait si peu de voitures qu'on savait à qui elles étaient. Voilà, il y en a des centaines comme ça. Vous en avez une chaque jour qui est tweetée sur le compte Radio Agnès. Franchement, moi, c'est mon petit plaisir du jour. Je vais chercher ça le matin ou le soir, parce qu'ils ne mettent pas toujours à la même heure, mais c'est le petit plaisir et la petite pensée du jour.
Et puis Mathieu, vous vouliez aussi nous conseiller le tout dernier film d'Agnès Varda.
Oui, qui n'était pas sorti au cinéma en France, qui avait été diffusé sur Arte, mais qui est disponible en DVD, en VOD, qui s'appelle Varda par Agnès. En fait, elle revient sur son cinéma, c'est une sorte de leçon de cinéma. Alors, elle revient sur sa carrière et surtout sur sa vision de qu'est-ce que doit être le cinéma. Écoutez un extrait.
Il y a 3 mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage. L'inspiration, c'est pourquoi on fait les films. Création, eh bien, c'est comment on fait le film. Avec quels moyens? Quelle structure? Seul, pas seul? En couleur, pas en couleur? Et le 3e mot, c'est partage. Parce qu'on ne fait pas des films pour les regarder tout seul, on fait des films pour les montrer.
C'est beau, Eva disait, ah cette voix, c'est rien que de l'entendre, oui. Je trouve ça émouvant. Donc le film s'appelle Varda par Agnès, vous le trouvez en DVD, il va sortir aux États-Unis. Et finalement, je trouve qu'elle aussi nous raconte bien comment, avant les autres, elle a inventé ce principe de raconter le quotidien dans le cinéma, je trouve ça très joli. Et hier, pour préparer la chronique, j'ai envoyé un petit texto à sa fille pour lui demander s'il y avait des actualités autour d'Agnès Varda qui se préparait. Elle m'a dit que oui, mais pour l'instant, tout était secret. Et elle a conclu le texto, parce que j'ai expliqué qu'on était avec Vincent Delerme, en m'écrivant, nous sommes ravis de la chanson de Vincent. Donc voilà, je voulais vous transmettre ce petit message. Gentil
ça
de Rosalie Varda.
Parce que c'est vrai que sinon c'est un peu
gênant. Oui, c'est un petit peu gênant, la chanson est pourrie. Vincent Delerme, justement, Agnès Varda, vous l'admirez en tant qu'artiste, en tant que femme aussi, enfin, c'était pour vous.
Ah ouais, mais c'est vrai que dans ce qu'on disait là, il y a un peu tout qui est contenu, parce que même la phrase je sais pas toi, mais moi je suis très visuelle, elle a comme ça cette manière de dire des choses très perso, mais en étant toujours connectée à la personne qu'elle a en face d'elle, de se soucier de ça, de s'intéresser à la personne qui est à ce moment-là, face à elle, dans le présent, c'est très impressionnant. Et oui, ça donne envie de lui ressembler, forcément.
Merci beaucoup Mathieu. Je crois que vous avez marqué des points avec notre invité Vincent Delerme, avec vos chroniques sur Agnès Varda. Au fait, comment vous avez trouvé l'album ?
Putain, bien, franchement.
Ah oui, bah, c'est pas très étayé comme pensée pour un vice-chef adjoint délégué du service culture, c'est un peu court.
L'équipe sauvage sur Europe 1, 16h, 18h.
Et vous écoutez Mathieu Noël, oui, jusqu'à 18h. Le petit plaisir de vos après-midi sur Europe 1, c'est l'équipe sauvage. Mathieu Noël entouré d'Eva Rock, bien sûr, et à présent d'Emmanuel Duteil, qui va, avec son sujet, tenter de convaincre l'ancienne animatrice de Thé au Café, Catherine Sellac.
Emmanuel Duteil, emmenez-nous au Japon.
Oui, alors pourquoi je vous emmène au Japon ? Parce que c'est l'événement du jour. Alors déjà, il fallait se lever très tôt, hein, c'est aux alentours de 4h30 à 5h du matin. Alors je vous sens quand même, surtout vous Mathieu, un poil moqueur, voire peut-être rieur autour de mon
sujet. Absolument pas, ça me fascine le Japon.
Ça vous fascine
vraiment ? Oui, c'est vrai.
Bon, alors si ça vous fascine, vous avez d'autant plus raison, puisque c'était un spectacle tout simplement extraordinaire ce matin. Pourquoi ? Parce que l'empereur du Japon, celui qui a été intronisé aujourd'hui, c'est le 126e du nom. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le trône du chrysanthème, qui est le nom de la monarchie japonaise, c'est la plus vieille monarchie au monde. Et ce qui est passionnant, c'est que c'est une monarchie qui est pétri de tradition dans sa façon de s'exercer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a assisté à des rites qui datent pour certains du 7e ou du 8e siècle. Par exemple, la façon dont l'empereur a été intronisé, où on l'a découvert, il était dans une tenue extrêmement traditionnelle qui n'est prévue qu'à cet effet. Idem pour l'impératrice Masako, qui est sa femme. Elle portait un kimono traditionnel du Japon. Il pesait 15 kilos ce kimono, il faut des heures entières pour pouvoir l'habiller. Alors, il y a plusieurs couches et tout ce genre de choses, c'était par ailleurs totalement magnifique. Et tout ça s'est passé aujourd'hui devant 2000 invités, dont 180 chefs d'État ou dignitaires. Alors il y a bien évidemment toutes les plus belles têtes couronnées du monde. Pour la Grande-Bretagne, c'est Charles qui était là. Il y avait le roi Felipe d'Espagne et sa femme. Il y avait la reine des Pays-Bas, Maxima, qui avait un chapeau vraiment très raté. Mais on avait par ailleurs d'autres très 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 belles tenues. Et nous, en France, on était représentés par
Nicolas Sarkozy.
Voilà, exactement. C'est le président Macron qui lui a demandé d'y aller. Alors, c'est pas la première fois que ça arrive. Hein.
Ah oui.
Pour l'intronisation en Géorgie,
ah oui,
c'était
pas.
Également Nicolas Sarkozy qui était allé. Et je crois qu'on avait demandé également à Ségolène Royal au Sénégal, ou je veux pas dire d'Annerie, mais en tout cas dans un pays africain, on avait également demandé à d'autres anciens représentants français pour représenter la France. Et il était, lui aussi, Nicolas Sarkozy, si vous allez regarder les photos. Pas en kimono, mais les hommes étaient une sorte de queue de pie un peu à la japonaise, et tout le monde devait être en habit. Donc, que ce soit les hommes ou les femmes.
Vous nous parlez d'une cérémonie qui relève de tradition séculaire, mais quel est le rôle aujourd'hui encore de l'empereur du Japon ?
Alors, c'est un rôle qui est purement protocolaire, mais c'est aussi bien la mémoire et un peu la résistance de ce pays. Il faut voir que la famille impériale est vraiment adulé au Japon. Et on n'est pas du tout comme en Thaïlande, on n'a pas le droit de critiquer la famille, on est obligé de les aimer. Là, on est vraiment sur un lien qui est extrêmement fort. Et ça vient aussi du fait que cette famille vit totalement reclus, on ne les voit quasiment jamais. Par exemple, le père de Naruhito, hein, l'empereur qui vient... Oui.
Ils vivent toujours au centre de Tokyo, dans cette espèce de jardin incroyable auquel on ne peut pas accéder quand on est autour.
Exactement, ils vivent toujours dans cette résidence impériale qui est de la... Je ne veux pas dire de bêtises là encore, mais je crois que c'est plus grand que Monaco ou quelque chose comme ça.
C'est immense, c'est au sein d'un parc, sein de Tokyo.
Au sein de Tokyo, mais ils sont totalement fermés. Là aussi, hein, tout est codifié. Par exemple, l'empereur du Japon n'a pas le droit de parler lui-même. C'est-à-dire que quand il va sur le terrain, quand il va rencontrer des gens, déjà ça arrive pas très très souvent, mais il n'a pas le droit de s'exprimer. Le discours qui a été lu aujourd'hui était un discours où chaque mot était codifié. C'est pire que la reine d'Angleterre, hein, qui elle aussi lit les textes qu'on lui a préparés. Mais donc, il n'a pas de rôle effectif au sein du pouvoir, mais c'est vraiment la mémoire du pays et c'est l'incarnation pour le peuple japonais.
Il ne faut pas oublier tout à l'heure que l'impératrice a été en dépression pendant des années.
Effectivement, l'impératrice Masako, qui est une polyglotte, qui est une femme extrêmement douée, qui était
brillante.
Pour les relations internationales, totalement brillante. Elle a épousé ce qui allait devenir l'empereur. Donc
aujourd'hui,
Naruhito.
Elle est en prison.
Alors, aujourd'hui, elle est en prison, mais aujourd'hui, elle va mieux. Parce qu'il faut voir que pendant des années entières...
Le mec qui défend, là.
Non, pas du tout. Parce que justement, elle a été totalement détruite par l'institution impériale. Elle n'a pas réussi à se faire à ce rôle de mère. Alors, il y a deux raisons. Il y a la dureté des règles impériales, mais il y a également le fait qu'elle n'a pas réussi à avoir de garçon, puisque le couple n'a réussi à avoir qu'une fille. Et il faut savoir qu'au Japon, on ne peut hériter du pouvoir que d'homme en homme. Donc, elle a eu une pression énorme, et ça va un petit peu mieux puisque le frère de l'empereur a lui réussi à avoir un garçon, donc il y a au moins la pérennité de la dynastie.
On peut convenir quand même que c'est assez archaïque tout ça.
Ah ça, on peut en convenir, je crois.
C'est archaïque, mais quand vous parlez avec, avec les Japonais,
c'est même les femmes japonaises sont...
Même les femmes japonaises, c'est-à-dire que n'importe quelle tenue qui va être portée par quelqu'un de la famille impériale va être copiée. Il y a vraiment, c'est sûr, je pense que vous avez totalement raison sur le côté...
Vu de l'extérieur, en tout cas.
Vu de l'extérieur, oui. C'est sûrement archaïque, mais vu du Japon, il faut voir que quand le précédent empereur a voulu abdiquer, hein, ce qui n'était quasiment jamais arrivé, on va dire, une fois en 200 ans, ça a été une révolution au sein du pays, c'est-à-dire que le Premier ministre ne voulait pas laisser l'empereur abdiquer, donc tout ça a été extrêmement compliqué.
16h-18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Des infos, de l'actu, des quiz, des chroniques, bienvenue dans l'équipée sauvage sur Europe 1 que nous offre Mathieu Noël chaque jour de 16h à 18h. À chaque jour un invité, cette semaine il a poussé les portes des studios, c'est Baptiste Le Caplain.
C'est donc le comédien humoriste Baptiste Le Caplain qui nous accompagne cet après-midi. Alors, on va encore dire que je me druckerise, mais promis, si j'avais trouvé ça moyen, j'aurais dit « Bon, bah Baptiste Le Caplain, vous êtes un garçon sympathique, sympatoche, et en ce moment, Canal+ diffuse chaque samedi une pastille sympatoche aussi, qui se regarde, on va dire, ça s'appelle Pitch, c'est à 20h30. » Ça, c'est fait, mais sinon, Baptiste Le Caplain, copie comique, et vous. Voilà ce que j'aurais fait si le truc ne m'avait pas plu. Mais non! Parce que votre série est beaucoup plus que sympatoche, elle est mais vraiment drôlissime et super bien écrite, super bien rythmée. J'ai été surpris, je le dis avec d'autant plus de sincérité, que j'avais complètement loupé la saison 1.
Ah bah c'est pas grave, c'est fait pour ça, c'est fait
on
pour
peut,
être rattrapé.
On peut entamer, je le dis tout de suite, la saison 2 sans avoir absolument vu la saison 1.
Et non, et puis surtout vous pouvez tout regarder sur le site mycanal.fr.
Oui, en replay,
voilà,
évidemment.
C'est très bien.
En replay mycanal. Il y a juste peut-être les 2-3 derniers épisodes de la saison 2 qui se suivent un peu.
Pour revenir au pitch, quand la série 10% est sortie, on a dit ça va peut-être pas marcher parce que ça parle d'un microcosme, le monde du cinéma. En fait, bon, évidemment, ça a marché parce que ça parle de tout le reste et c'est la force des personnages. Là, je dirais que c'est pareil, c'est un producteur de cinéma, mais ça parle pas du tout que de cinéma.
Ah non, non, pas du
ça
tout.
Ça parle même pas du tout de cinéma.
Oui, non, ça parle de tout sauf de cinéma, en fait.
Non, c'est ce que me disait Canal. Des fois, ils m'ont dit, mais attends, Baptiste, les 3-4 épisodes que tu nous as envoyés, là, il y en a un, c'est le relais colis, il y a l'anniversaire de Chantal, il y a une voyante qui vient, enfin, je trouve que les épisodes les plus drôles, quelque part, c'est les épisodes où on n'en parle pas. Et moi, c'est ça qui me fait rire, c'est d'évoquer un truc sans en parler vraiment, quoi. Après, ce personnage de Lionel Planche, c'est à force d'avoir croisé des gens dans le,
oui,
dans
voilà,
le métier qui disent « Tu sais que j'ai une boîte de prod ?»« Ah bon ? » ?»« Ouais, ouais, j'ai envie de faire des trucs. Bah, t'es le bienvenu. Hein. Voilà, moi, j'adore ce que tu fais. » Mais je dis « Mais tu veux faire quoi, concrètement ?»« Bah, je suis dans le... Voilà, numériquement, je suis là, à la radio aussi, je fais des pastilles. » Donc, et puis, il y a des producteurs de cinéma qui m'ont inspiré, mais le vrai point de départ, c'est Tom Cruise dans Tonnerre sous les Tropiques.
Ah, on a entendu un extrait de Tonnerre sous les Tropiques tout à l'heure.
Ouais, alors moi je l'ai vu en VO. Hein,
ah oui, évidemment, bah ça
ouais,
c'est sûr.
Bah oui, mais Mathieu, bah, c'est comme ça. Hein.
Mais moi aussi, mais je pense à nos auditeurs, cher Baptiste.
Oui, bien sûr. Et donc Tonnerre sous les Tropiques, moi, m'avait scotché parce que j'avais vu Tom Cruise dans un rôle ultra drôle. C'est au moment où il était au plus bas à Hollywood, ouais, où il y avait des rumeurs sur son homosexualité, sur la scientologie, sur le fait qu'il mettait des talonnettes, enfin il se faisait défoncer de partout, c'était horrible. Et il a sorti ce rôle où il joue un petit gars chauve, obèse, qui boit que du Coca Light, et il est mais extraordinaire.
Et il est odieux dans ce film, enfin il est vraiment complètement un contre-emploi.
Et alors en fait, ils se sont inspirés d'un vrai gars qui leur a refusé le film apparemment. C'est un vrai gars d'Hollywood, et avec Xavier Mingon, que je connais depuis 10 ans maintenant, il m'a dit voilà, si t'as envie de faire un programme court à Canal, Ariel Saraco insiste, et tout, et c'est vrai. Depuis, bref, toutes les rentrées, elle me disait fais un truc. Mmh. J'avais pas d'idée. Je dis bah, à la limite, j'aimerais peut-être trouver une idée dans cette région-là, quoi. Et Xavier Mingon a une boîte de prod, une petite boîte de prod qui s'appelle Roger Films. Donc je dis bon, vas-y, on va essayer de faire ça.
Est-ce qu'il y a une part d'impro? On sait que vous êtes très fort en impro. Est-ce que dans Pitch, il y a des parties, des délires, des envolées qui sont de l'impro? Ou tout est vraiment écrit au mot près à la
virgule? Non, tout n'est pas écrit au mot près. Enfin, on est obligé de suivre. Alors le tournage est très découpé, c'est très déstabilisant pour les comédiens qui sont venus parce qu'on faisait une réplique. Et souvent, Xavier, qui était derrière le réal, donc est auteur de cette série que je salue, disait « Vas-y, refais la phrase, refais ». Donc, on refaisait bout par bout. Et c'est vrai que de temps en temps, comme moi, ça cogite pas mal et que des fois, j'attendais, j'avais tendance à balancer des petits trucs à droite, à gauche. Et des fois, il me disait « Bah, vas-y, improvise et tout ». Mais on avait peu de temps. La saison 1, on a tourné 15 épisodes en 3 jours.
Oh là là !
C'est encore plus vite que le plus bas de la vie, dis donc.
Ouais. On a tourné 60 minutes de sketch en 3 jours. Donc bisous à Guillaume Canet, 18 millions d'euros de budget pour la suite des petits mouchards.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
C'est donc le comédien humoriste Baptiste Le Caplain qui nous accompagne cet après-midi. En hommage à Pitch, le programme court de Canal+, où vous incarnez un producteur du cinéma, nous allons faire un vrai faux sur le cinéma. Justement, où allons-nous chercher tout ça? Je me pose la question. Une bonne réponse, un point. C'est parti. Vous avez vu que je cherchais du regard le type qui a fait le quiz. On commence avec vous, Baptiste Le Caplain. Ouais. Si Marilyn Monroe était encore parmi nous, elle aurait le même âge que Valérie Giscard d'Estaing. Vrai ou faux?
La précision est trop précise. Donc je pense que c'est oui. C'est vrai?
C'est vrai.
Ouais.
Et le même âge que la reine Elisabeth II d'Angleterre. Ah ouais. Eva Rock. Keanu Reeves a un prénom d'origine hawaïenne. Il signifie... Il
c'est
signifie grosse pirogue difficile à manœuvrer.
Oui, non, mais bien sûr, non, c'est faux. Hein.
Faux, mais pas oui. Loin. Ça veut dire brise fraîche au-dessus des montagnes.
Ah bah oui.
Brise fraîche au-dessus des montagnes, on dirait Kezak en fait. Ça s'appelle ouais. Keanu Reeves Kezak.
Qu'est-ce s'appelle Orio Kezak.
Qui s'appelle Orio Kezak.
C'est sa grand-mère qui était mi-chinoise, mi-hawaïenne. Vous le saviez ça?
Non, je savais qu'il y avait des origines hawaïennes. C'est pour ça que j'ai eu un doute au début, mais la description du prénom, non, c'était
mais
pas possible.
Il est canadien aussi.
Ah, je sais pas.
Il est un peu tout Keanu. Keanu. Je sais pas, je sais jamais, comment on l'a dit. Keanu.
Keanu.
J'ai dit Keanu, j'ai dit Keanu, ça arrive au meilleur. Attention, vous jouez tous les deux. Voici quatre films au titre improbable. Il vous faut trouver celui qui a été totalement inventé. 1. Si tu vas à Rio, tu meurs. 2. La grande Zorro, qui serait un remake gay de Zorro. 3. Poule et frites. 4. Gandhi contre les zombies vampires. D'après vous.
Il y en a une seule qui est fausse.
Il y en a une seule qui est fausse, oui.
Moi, j'irais Gandhi et les zombies.
Gandhi et les zombies, non, je pense que ça peut exister. Non, la deuxième, c'était quoi
C'était la grande Zorro.
La grande Zorro. Oh, la grande Zorro, c'est quand même... C'est kitsch à mort. Hein.
Oui, mais dans les, tu sais, dans les bacs à films...
Ah, ça y est, vous tutoyez l'invité
oui, pardon,
maintenant.
Excusez-moi, ça m'a échappé.
Ça y est, elle est bien avec vous, ouais, la Baptiste.
Ouais. Les bacs à films pour les plus de 18 ans.
La grande Zorro,
si
non,
tu vas à Rio, tu meurs. La grande Zorro, poule et frites.
Si tu vas à Rio, tu meurs. C'est nul comme film.
Ah, ça c'est vraiment nul. Hein.
Ouais, non, mais je pense que c'est ça, ouais.
Mais vous avez tort, c'est Eva qui a raison.
Ah,
Gandhi contre les zombies.
La réponse 4 est inventée. Gandhi contre les zombies vampires. Si tu vas à Rio, tu meurs. Sorti en 1987 avec Aldo Machon. La grande Zorro, sorti en 1980, le vrai Zorro se foule la cheville. Il est remplacé par son frère jumeau. Par son frère jumeau gay, qui demande que son costume soit pourpre. Poule et frites, sorti en 87, un film de Louis Rego avec Galabru, que visiblement vous n'avez pas vu, moi non plus. Et Baroque dans Psychose, le film culte d'Alfred Hitchcock, sorti en 1960. C'est la première fois qu'on voit un homme en slip, vrai ou faux?
Non, je dirais faux.
Faux, vous avez raison, c'est un piège. Par contre, c'est la première fois qu'on voit une femme en slip et soutien-gorge.
Ah.
Oh.
Et pour être totalement complet, c'est la première fois qu'on voit au cinéma une chasse d'eau utilisée.
Ah ouais.
Mais ça, c'était... Mais Hitchcock, on en parle souvent sur
vêtements.
Le... Non, mais le côté scénario, tout ça. Mais oui. Il y a des trucs plus forts. Oui.
Mais
la chasse d'eau. Qui a gagné? J'ai l'impression, c'est terrible. On n'a rien noté, première. Donc c'est Baptiste Le Caplain qui gagne. On a oublié d'enregistrer
elle
les
elle
points.
A gagné, je crois.
Non,
gagné.
Non, mais c'est que quand, même quand je gagne, je décide que c'est l'invité qui gagne.
Ici, l'invité gagne toujours.
Ah.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage.
Et la compétition se poursuit pour les journalistes de la rédaction d'Europe 1, compétition orchestrée par Mathieu Noël qui nous donne rendez-vous tous les après-midi de 16h à 18h sur Europe 1 et même le week-end pour les moments essentiels. Alors on le retrouve avec à ses côtés sa complice Eva Rock, Vincent Delerme qui était invité lors de l'émission en public et tout de suite Ève Roger.
Ève, vous nous parlez aujourd'hui de ce que vous avez poétiquement appelé la graine de l'amitié. L'histoire, c'est vrai, l'histoire d'un trio pas banal, deux femmes qui veulent avoir un enfant et qui demandent à leur meilleur copain de les aider.
Et oui, je vais vous raconter donc cette petite pièce en trois temps, tirée d'un livre qui s'appelle Papa Graine aux éditions Anne Carrière. Dans les rôles principaux, nous avons Annabelle, Pinky et Jérôme. Les deux femmes sont en couple, veulent avoir un bébé, mais elles sont très exigeantes. Elles ne veulent pas d'un géniteur anonyme pour que l'enfant puisse le connaître dès le début, il faut aussi que le géniteur soit beau, intelligent, cultivé. En même temps, il ne faut pas qu'il soit trop encombrant, trop présent, puisqu'il ne faut surtout pas qu'il se prenne pour le papa de l'enfant. Donc, premier acte.
Le casting.
Comme beaucoup à l'époque, c'était il y a 10 ans, donc ce n'était pas hier. Elles regardent du côté de leurs amis homosexuels, ça se faisait beaucoup, un couple de femmes, un couple d'hommes, ils font un enfant ensemble. Mais ça ne va pas parce qu'elles veulent l'enfant pour elles toutes seules. Alors elles se disent pourquoi pas un hétéro, mais c'est risqué là encore, et s'ils voulaient reconnaître l'enfant. Et puis voilà qu'arrive Jérôme, un ami de 30 ans. Alors Jérôme est un peu frimeur, un peu égocentrique. Alors il propose ses services parce qu'il est un peu flatté. Il est séparé, il a déjà une fille, donc c'est assez rassurant pour les deux femmes. Donc marché conclu, banco, deuxième acte.
Et nous voilà au deuxième acte, c'est ce qui intéresse notre public aujourd'hui, la conception.
Et voilà, et là je me tourne vers le public. arrêter les fantasmes tout de suite. Ils n'ont pas fait l'amour
à trois. Mais je vois que Mélanie fantasmait déjà là-bas dans le public. Hein. Oui, je le vois.
Ils n'ont pas fait l'amour à trois, contrairement à ce que leur posent comme question tous leurs copains. Alors, vous avez fait l'amour à trois? Non, pas du tout.
Dommage, parce qu'on peut toujours joindre l'utile à l'agréable.
Ça y est, vous en êtes aussi, Mathieu. Alors, ils optent pour ce qu'on appelle la méthode artisanale. Je laisse planer encore un peu le suspense. L'important, c'est que ça se passe au moment de l'ovulation de Pinky. Et là, je laisse la parole à Jérôme.
C'était quand même chronométré tout ça, parce qu'il fallait qu'elle soit en pleine ovulation, Pinky. Et puis alors moi, donc, j'ai fait ma petite affaire de mon côté en me stimulant manuellement et pas avec des magazines féminins, mais avec de la vidéo. Et donc, j'apporte ma petite boîte un peu comme une cigogne. Et puis en fait, elles sont pas là. Donc je râle et puis qu'est-ce que je vais faire de cette boîte? Ça la fout mal, ça va. Je l'ai laissée sous un paillasson, puis elles sont débrouillées après.
Voilà.
C'est la voisine qui a récupéré le.
vous croyez pas si bien tirer. Il a eu peur qu'on vole la petite boîte. Bon, oui. En attendant, le sperme est frais, pressé du jour. Dans un.
Non mais. Bon, on fait une pause là-dessus parce qu'il y aura un son qui va être mythique là. C'est-à-dire que je vais vous le ressortir toutes les semaines.
Toute la saison, oui.
Alors, il est mis en fait dans un préservatif fermé avec un nœud dans la boîte. Et Annabelle et Pinky vont le mettre dans une pipette de Doliprane. Ça, je laisse un blanc parce que tous les parents qui ont eu des enfants savent ce que c'est que cette pipette de Doliprane, un grand tube rose. Et maintenant, c'est Pinky qui raconte.
Ah bah, comme dans tout couple, hein, pour faire un enfant, le départ, c'est quand même de faire l'amour. Donc oui, nous avons fait l'amour. Bah, grâce à la petite boîte déposée sous le paillasson, tout s'est bien passé et l'enfant est né quelques temps plus tard.
Et voilà, l'enfant, c'est Alice. Aujourd'hui, elle a 9 ans. Alice, mais il y a
le troisième acte, les clashs.
Et ben voilà, parce que quelle est la place de Jérôme dans tout ça maintenant? Ben, oui. Il ne peut pas reconnaître l'enfant. Alors au début, il est délicat, il ne va pas à la maternité, il vient de temps en temps, une fois par mois avec des peluches et tout ça. Mais un jour, c'est le drame. Jérôme, un peu frimeur, je vous l'ai dit au début, et ben sur Facebook, il poste une photo d'Alice en disant « c'est ma fille, comme elle est belle ».
Aïe.
Fureur des deux femmes. Et donc, ça, deux petits épisodes comme ça, et ça c'est la brouille pendant 2 ans. Mais je vous rassure, Papa Graine, parce que c'est son nom, c'est comme ça qu'Alice l'appelle, Papa Graine se rabiboche avec les deux femmes. Et le livre est publié la semaine où en France est votée la PMA pour toutes.
Merci beaucoup Ève Roger pour ce sujet vécu. Est-ce que Vincent Delerme, vous pourriez...
Quelle avait votre question?
Ma question, la transition est très simple. Non mais elle est très simple, c'est une question éthique, je peux me la poser à moi-même, on peut réfléchir autour de la table. Est-ce que vous accepteriez de faire ça pour une amie?
Je pense qu'il faut, tant que la question s'est pas posée concrètement, c'est dur d'avoir une grosse réponse, mais je dirais plutôt non, a priori, parce que c'est quand même particulier, mais je sais que c'est pas très courageux, mais ouais, c'est quand même un enjeu de donner la vie en général. C'est un truc qui fait qu'on s'interroge un peu. Et là, du coup, la donner sans pouvoir après suivre un peu les choses et éduquer, je sais pas.
Non, mais c'est vrai que vous n'êtes pas très courageux, parce que moi, personnellement, j'aurais dit non aussi à cette question.
Sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Avec Mathieu Noël et Eva Rock, il est 16h35. Cette semaine, le dessinateur Johan Sfar a répondu à l'invitation de Mathieu Noël. Il a rappelé notamment les difficultés qui touchent les auteurs de BD en France. Et puis, il nous a parlé, bien sûr, de la publication du 9e tome du Chat du Rabbin aux éditions Poisson Pilote. Ce Chat du Rabbin d'Alger est pris de la fille de son maître qui est apparu dans le monde de la BD en 2002.
Peut-être ce nouvel album, c'est un prequel en fait, on peut dire, puisqu'on découvre l'origine du Chat du Rabbin.
On commence quelques pages avant le tome 1. J'essaie juste de raconter comment le chat est entré dans la famille et ce que Zlabia peut faire de sa vie. En fait, on dit que les chats ont 9 vies, c'est le 9e album. Et elle se demande ce qu'elle a le droit de faire dans son existence, en tant que femme, en tant que nana juive des années 30, tout ça.
Le départ de cet album, c'est Zlabia qui perd sa maman, mais elle ne le sait pas. Le rabbin ne lui dit pas, il n'ose pas lui dire qu'elle a perdu sa maman. Ça fait forcément écho à votre propre histoire, Johan Sfar, vous qui avez perdu votre mère à l'âge de 4 ans. Vous avez besoin de parler à un moment de cet épisode de votre vie? Il y a un peu de vous dans...
Non, parce que j'ai raconté ma vie dans 10 milliards de bouquins. Par contre, la plupart de mes personnages sont orphelins. Parce qu'il y a beaucoup de faux orphelins dans les livres pour enfants, parce que tout le monde fantasme d'être orphelin. Moi qui ai vécu ce truc-là, je ne sais pas raconter un enfant autrement que comme enfant orphelin. Donc c'est le point de départ de plein de récits différents. Et là, comme le Chat du Rabbin, c'est tout entier un récit sur la parole et sur la parole dans la famille. Donc quand on dit c'est magique dans une histoire, en général, c'est qu'il y a une vraie raison. Donc à un moment, le chat fout un tel bordel et le rabbin dit il fait un bruit. Et le rabbin dit c'est exactement de ça dont on avait besoin dans cette famille. Et le moment où il est seul avec sa fille et il dit tout va très bien, en fait, on voit bien que rien ne va du tout. Il y a trop de silence dans cette famille.
Jean-Philippe Ballas.
À quel moment vous avez senti que votre histoire très personnelle avait une résonance universelle et que le Chat du Rabbin devenait un classique de la bande dessinée?
quand on m'a dit que ça se vendait bien, parce que je fais des bouquins qui se vendent à 4000 exemplaires et d'autres qui se vendent énormément comme le chat, et je l'ai fait avec le même, enfin, le même investissement. Par hasard, parfois, c'est, Clément Rosset m'avait dit ça, avait dit le pire qui puisse vous arriver, c'est les fois où vous avez le sentiment qu'ils vous comprennent. Et parfois, sans faire exprès, on se fait comprendre dans un récit. J'essaie toujours de protéger l'écriture. Par exemple, après le tome 5, j'en ai pas fait pendant 6 ou 7 ans. Parce qu'il ne me parlait pas, je ne me suis pas forcé. Peut-être mon petit secret, c'est que j'y vais que quand j'ai envie. Et s'il doit dormir pendant 10 ans, il dormira pendant 10 ans. Et voilà. Mais maintenant, j'ai l'impression parfois qu'il parle vraiment d'un monde imaginaire, le chat du rabbin. Parce que ces souvenirs maghrébins, ils existent de moins en moins. Enfin, même les souvenirs de ça disparaissent. C'est ça qui me fait un peu flipper.
Sur ce que représente ce chat pour vous, vous dites « C'est un peu ma tentative de garder une image féerique du Maghreb telle que me l'a raconté ma grand-mère. » Une image féerique qui... selon vous, est en voie de disparition aujourd'hui ?
Oh non, ça va de mieux en mieux. Les gens s'aiment de plus en plus. Le débat sur le sacré et sur le religieux se passe très bien.
Ça s'apaise.
Tous les problèmes qu'on avait en Algérie dans les années 20 sont réglés. Les gens s'aiment. D'ailleurs, ce soir, je vais célébrer un mariage avec un curé, un rabbin, un imam. Et après, on va tous aller au dépôt. Non, ça se passe pas très très bien. Moi, j'ai perdu tous mes combats. Donc, mon espoir, il est dans mes livres. Mais blague à part, c'est vrai que personne ne fait jamais rêver avec le Maghreb. À chaque fois qu'on parle de Maghreb, tout le monde serre tous les organes qu'il a en se disant on va être stressé. Donc, je pense qu'on va vers ce qu'on nous raconte. Je crois pas au conte de fées, mais en revanche, la cohabitation sans massacre immédiat, oui, j'aime bien l'espérer.
Le chat du rabbin, c'est donc l'image d'une société où les religions coexistent. Et on a tendance à oublier que c'est non seulement possible, mais que ça existe. Vous citez l'exemple d'une personne à New York qui vous dit « Quelle imagination d'inventer un univers où il y a des juifs qui vivent dans un monde arabe ?» Oui, on l'oublie presque que ça existe, en fait.
Oui, parce que la réalité algérienne, avec tous les drames qu'il y a eu, c'est tout de même une réalité cosmopolite et composite de gens qui sont envahis les uns les autres depuis l'Empire romain et qui ont eu l'habitude de composer d'une certaine façon. Or, depuis les États-Unis, on voit un judaïsme ashkénaze, on connaît la réalité du Proche-Orient, on ne connaît pas la réalité de ces juifs qui ont l'air arabes, de ces juifs séfarades qui savent de moins en moins où se mettre aujourd'hui et ça fait flipper.
Ça vous inquiète tout ça quand vous voyez le débat actuellement sur le voile qui ressurgit encore en France ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous attriste ?
Vous savez quoi ? Non, parce que c'est tellement nul, c'est tellement lamentable ce à quoi on assiste en ce moment que moi je considère que tous mes combats sont perdus, donc j'écris très librement. J'ai plus le moindre espoir que mes livres servent à quoi que ce soit ou que ça rassemble quiconque. Je pense que tous ces combats sont perdus.
Mais ça rassemble forcément puisque le chat du rabbin se vend bien. C'est-à-dire qu'il y a quand même une partie de la population qui est très sensible à ces idées de tolérance.
Mais bien sûr. Mais les gens qui hurlent le plus fort sont ceux qu'on entend le plus dans un camp comme dans l'autre, avec une énorme hypocrisie dans les deux camps parce qu'on voit très très bien qu'il y a des sous-entendus dans un camp comme dans l'autre. Donc il y a les gens qui rêvent de massacre. Sont le plus entendus et ont le plus d'influence en ce moment. Donc, moi, je fais mes livres dans mon coin, mais je n'ai pas le moindre espoir que ça aille mieux. Et bizarrement, c'est assez libérateur. Ça donne envie d'être punk. J'ai vu le film Joker il y a deux jours. Je ne sais pas si on a le droit de dire des gros mots sur Europe 1. C'était un énorme fuck à tout le monde. Mais moi, sincèrement, j'ai envie d'un côté de faire des choses mignonnes comme le chat, de l'autre côté d'écrire d'énormes saloperies et de faire un bras d'honneur à tout le monde. Je n'ai pas envie de servir à quoi que ce soit dans ce monde-là. Au bout d'un moment, on a envie de dire aux gens, mais débrouillez-vous.
Alors là, on le sent aussi dans votre discours. Il ne faut pas penser que le chat du rabbin est une BD didactique, mièvre sur on va tous vivre ensemble. Mais il y a beaucoup d'humour dans cette BD. Il y a une réplique que j'adore. Si j'étais antisémite, mon livre préféré, ce serait la Torah. Du début à la fin, il y a des juifs qui meurent. C'est presque de l'humour juif, ça.
Mais c'est vrai que c'est très anxiogène. Enfin, l'histoire sainte des juifs, c'est l'histoire de toutes les fois où on a essayé de les massacrer.
C'est vrai.
Alors, moi, j'ouvre les textes saints en tremblant à chaque fois.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Face à la légende de la BD et compatriote Joanne Spahr, Eva est doublement tremblante. Je vous donne le thème, Nice.
Ah merde.
Effectivement. Alors je vous propose de jouer tout de suite à qui veut gagner le titre de meilleur niçois. Joanne, comme Eva Rock, vous êtes née à Nice. Nous allons voir qui connaît le mieux la 5e ville de France. Une bonne réponse vaut un point. Joanne Spahr, si je vous donne rendez-vous, Dijoux, on se voit quand ?
Ben c'est jeudi.
Ouais, bien. Un vrai niçois.
Ça, je ne savais pas.
Et samedi, comment on dit ?
Je ne sais pas.
Dissata. Ouais. Eva Rock, je suis un niçois très célèbre. J'ai publié La cuisine du comté de Nice en 72 et j'ai fini ma vie en Uruguay. Qui suis-je ?
Jacques Médecin.
Oh, mais ce quiz est trop facile pour des vrais niçois. Maire de Nice pendant 24 ans, 7 mois et 5 jours.
On en a fait un livre aussi.
Mais alors justement, c'était la suite. J'ai profité pour citer le meilleur livre sur Jacques Médecin, Le Niçois, signé d'un certain Joanne Spahr. Joanne Spahr, Eva Rock, vous jouez tous les deux en même temps. Je vous fais écouter un hymne niçois. J'ai nommé Nice Baie des Anges, de Dick Rivers. Un mot va manquer dans la chanson. Et vous me le donnez. Du côté du Rimanba.
Vous êtes bête, oh là là.
Pour un.
Pour un, je sais pas.
Ah mais
moi.
Non, mais alors ça, j'en sais rien du tout. Et hein. Pour
c'est
ça, je l'aimais bien, Dick Rivers, c'est pas oui.
Ah ouais. Ah non, je sais pas
j'ai
du tout.
Alors cherchez la rime. Du côté des Remember.
Du côté des Remember.
J'ai pris des flashs et des coups au cœur. Brûler mon hache pour un...
Radiateur.
Radiateur pour Jean-Philippe Ballas. Le mec, il est à la fois conformiste et... Il veut bien fumer du hache, mais bon, il ne veut pas avoir froid l'hiver, quoi, surtout à Nice. Quoi. Non, il a brûlé son hache pour un... On écoute.
Brûler mon hache pour un hamburger.
Pour un hamburger, et oui,
pour
Dick était gourmand. Et oui, il était gourmand.
C'est tellement niçois.
C'est oui, ça. C'est pour un pambagna, ça ne rimait pas. Il avait voulu changer pambagna par hamburger. Jeune Svar et Varrock, je vous donne 4 titres de films de Jean-Pierre Mocky, né à Nice. Lequel est totalement faux? 1. Un linceul n'a pas de poche. Le glandeur. Le mari du curé. Alliance cherche-doigt.
Je crois que le mari du curé est une invention.
Le mari du curé.
Et moi j'aurais dit alliance cherche-doigt, non?
C'est Joël Schmar qui remporte le quiz. Le quiz n'est pas fini. Mais je peux déjà annoncer que c'est Joël Schmar qui va l'emporter. Car je suis une forme de devin. Effectivement, c'est le mari du curé qui n'existe pas. C'est dommage.
Vous connaissez l'histoire des titres de films de Mocky?
Non.
Bon, il achetait des romans policiers et il attendait le mois où ça tombait dans le domaine public pour commencer l'adaptation. Et il avait une pile, il avait toutes les séries noires et c'est ça qui décidait du titre de ses films.
Ah, c'est génial. Ah,
je ne savais pas. C'était l'info en plus de Joanne Sfar.
Ce type était génial.
Joanne Sfar et Varrock, question de rapidité maintenant. Nous cherchons une niçoise. Écoutez.
On y va tout de suite avec une première question.
Joanne Sfar
à... oh, c'est de niçoise.
Ouais.
Jean-Pierre, si tu devais te comparer à une vedette de cinéma, à qui est-ce que tu te comparerais-tu?
Jean-Pierre?
Je
sais. Oui, non.
C'est Michel Larocque.
C'est Michel Larocque.
Oui.
Qui faisait Évelyne Leclerc dans la parodie de Tournée Manège, des Inconnus. Alors attention, parce qu'Eva Rock a marqué un point. Donc quel est le bilan finalement de ce quiz?
Mitigé.
Ouais. On me dit égalité, mais donne le point, mais donne la victoire à Joanne Sfar.
C'est dégueulasse.
Effectivement, Joanne Sfar,
c'est tellement vexant. Allez, tu as gagné. C'est bien, c'est toi.
Alors nous dirons égalité. Fort en BD, fort en cinéma, fort en roman, fort même en quiz. Joanne Sfar, j'ai lu que vous n'aimiez pas qu'on dise de vous que vous êtes un boulimique de travail. Mais alors, qu'est-ce que vous êtes? Comment vous vous définiriez? Parce que dans une même journée, on fait pas la même chose. Hein,
ben mais non, mais parce que j'adore dessiner et écrire et parce que je pense que j'ai des trucs à raconter. Je suis pas comme un gros névrosé en disant faut que j'y aille. C'est que ça me fait vraiment plaisir. Et c'est j'ai des journées assez calmes en fait. C'est que de 6 à 8 heures par jour, je dessine et j'écris, mais les autres gens aussi font leur travail 6 à 8 heures par jour. Donc voilà. Mais
il n'y a pas une vertu thérapeutique dans tout ça? Il n'y a pas un vide à combler ou que sais-je?
Dans le sens où ça rend heureux de dessiner et d'écrire, mais je crois que un peu pour tout le monde, moi j'ai eu la chance de pouvoir en faire mon métier, mais j'y vais jamais parce qu'on me met un pistolet sur la tempe, quoi, ça m'éclate. Et après, peut-être qu'il y a un aspect où ça me plaît plus que la vraie vie, ça c'est une autre question, mais la vraie vie ça va quand même. Hein.
ça a l'air. Hein. Il paraît qu'il y a d'autres dessinateurs qui passent parfois chez vous, comme Mathieu Sapin, c'est vrai?
Oui, c'est vrai.
Vous écrivez à quatre mains? Comment ça se passe?
Non, on a travaillé en atelier pendant une vingtaine d'années avec plein de copains, comme Christophe Blain, comme Mathieu Sapin, comme Riyad Satouf, comme Lewis Trondheim. Et j'ai un grand bureau où il y a des places toujours pour les copains. Et Mathieu, c'est le plus normal de mes copains. Donc quand il vient, c'est vrai. Les auteurs de BD sont complètement dingos. Comme ils rencontrent très rarement le public, ils peuvent aller très loin dans leur dinguerie. Et par exemple, Mathieu Sapin, il a l'air normal. Un jour, on va découvrir que c'est Xavier Dupont de Ligonnès, mais là, pour l'instant, ça se voit pas. Tandis que les autres, si Christophe Blain vient à la maison, on peut pas travailler parce que Christophe Blain, sa vie, c'est les monologues. Ça y est, tu peux pas dire ça. Et là, il parle pendant 2 heures. Et on travaille plus. Et des fois, il tape sur l'épaule des gens. Enfin, voilà. Donc, Mathieu Sapin, c'est un ami compatible avec le travail.
Et quand des stars de la BD comme ça se retrouvent dans une même pièce, vous parlez de votre art ou vous pouvez parler comme, je sais pas, c'était Amanda Lear qui racontait ça. Une fois, elle a espionné Picasso et Dali au téléphone. Elle a pris le petit combiné de téléphone pour écouter ce qu'ils disaient. Elle dit, ils doivent parler de grands sujets d'art.
Et
en fait, ils parlaient de meufs. En fait, de
gros mots, beaucoup de gros mots.
Beaucoup de gros mots.
Et dans le cas de Mathieu Sapin, comme il entre partout. Mathieu Sapin, c'est le seul gars qui a le 06 de Gérard Depardieu, de François Hollande et d'Emmanuel Macron. Donc, il me raconte tous les secrets des alcôves et des machins et des trucs qu'il dit pas dans ses BD. Donc, on n'en revient pas. En fait, on n'en revient pas à quel point notre pays est petit et à quel point c'est pas compliqué d'avoir accès à quiconque. C'est vrai, Mathieu Sapin, il est pas très grand, donc il va dans les endroits. Mais il a réédité l'exploit de Tintin. C'est-à-dire, c'est le petit reporter en BD qui va partout et les gens se rendent pas compte. Il fait pas que dessiner. Il écrit ce que disent les gens aussi. Alors, des fois, des petites confidences, des machins. Et lui, il peut vous faire le test comparatif de l'administration Hollande et de l'administration Macron.
Est-ce qu'il va en faire une BD de ça?
Ah, ça, je le laisse en parler. Mais en tout cas, il a du matos.
En tout cas, vous faites bien sa promo. Hein, comme quand on peut être le numéro 1 de la BD et être sympa avec les autres.
16h-18h sur Europe 1,
l'équipé sauvage.
Oui, nous sommes avec Mathieu Noël, mais aussi sa complice Eva Rock, Jérôme Lacroix à présent, qui va nous offrir son meilleur sujet pour captiver l'invité, en l'occurrence Catherine Sellac, qui est venue nous parler de son livre « À l'amour, à la vie » paru chez Flammarion et dans lequel elle a recueilli les confessions de nombreux artistes, Claude Lelouch, Sandrine Monner, Marianne James, François Berléand ou encore Thomas Dutronc.
Parfois, il est bon, même au sein d'une émission à vocation humoristique, de marquer une pause pour penser à Kafka. Oui, Catherine Sellac, quand je marque une pause pour penser à Kafka, je fous bac. Je me disais que l'auteur du Château ou du Procès, l'écrivain de l'absurdité administrative par excellence, aurait adoré l'histoire que va nous conter à présent le plus littéraire, le plus raffiné des journalistes sportifs, puisque la dernière fois, lorsque je lui ai demandé quand il comptait venir dans l'émission, il a eu cette inspiration aussi précieuse qu'inédite.
Qu'importe mon choix, dans la date.
Oui, qui de mieux que vous, Jérôme Lacroix, pour nous décrire une histoire kafkaïenne dans le monde du football féminin où la Coupe du Monde est déjà, hélas, un lointain souvenir.
Je vous emmène ce matin au Royaume du But, je pense qu'on peut le dire. Bienvenue en Absurdie avec l'histoire de cette équipe de foot girondine. Une équipe féminine de Bordeaux, le club s'appelle les Coques Rouges. Voilà. Alors récemment, dans leur championnat départemental, c'est le plus petit niveau du foot au féminin, elles ont perdu deux rencontres in extremis. 5-4, bon ça arrive, mais le scénario de ces rencontres a de quoi surprendre. Elle menait 4-0 à 5 minutes de la fin, avant de finalement perdre 5-4 en raison de 5 buts inscrits contre leur propre camp. Elles se sont marquées 5 buts, parce que pour ces filles, c'est victoire interdite. Elles se sabordent à tous les matchs, parce que si elles gagnent, eh bien l'adversaire aura la possibilité de déposer une requête administrative qui donnera automatiquement match perdu pour ces girondines. Et en plus, elles devront s'acquitter d'une amende.
Ça veut dire en gros que cette équipe aujourd'hui joue dans l'illégalité.
Exactement, voilà l'histoire. En fin de saison dernière, une saison difficile, la plupart des filles quittent l'équipe. En reste seulement deux joueuses. Via le bouche à oreille, une petite campagne de communication, une trentaine de joueuses s'engagent pendant l'été, largement donc, de quoi aligner une équipe avec 11 joueuses, parmi lesquelles 9 sont donc de nouvelles arrivantes. Et bien ça, c'est interdit, un règlement interdit.
Mais interdit d'aligner. Pourquoi en départemental, on n'est pas, pas en Ligue 1?
Exactement, c'est d'où l'absurdie, un règlement interdit d'aligner plus de 6 joueuses issues des transferts de l'été. Et l'amende éventuelle est lourde pour le petit budget d'un club comme celui-ci. 70€ par joueuse hors quota, ce qui ferait minimum 210€ à payer à tous les matchs. Alors à chaque rencontre, la pénitence est la même. Alors d'abord, avant la rencontre, l'entraîneur des Coques Rouges téléphone à son vis-à-vis adverse pour le prévenir. Soyez pas surpris, si on gagne à 5 minutes de la fin, on va se mettre tout à coup à marquer des buts contre notre camp ou à vous laisser marquer. Concrètement, lors du match, voilà ce qui se passe. Le sabordage démarre à un signal. L'entraîneur des Coques Rouges hurle depuis le banc de touche « Bonsoir Clara !» Parce que Clara, c'est le prénom de la gardienne de l'équipe. Et au début de toute cette mésaventure, c'était elle qui se mettait elle-même les buts contre son camp. Ses coéquipiers ont jugé la chose trop cruelle. Alors désormais, elles s'y mettent toutes.
Oh bah oui, c'est mieux, c'est sûr, c'est la solution.
Une situation qui crée de sévères moments de tension pendant les matchs.
Mais c'est pas du football. Je voulais pas jouer.
On est le 15 septembre dernier et l'incrédulité d'une joueuse de l'équipe de Bazas, une joueuse adverse à ce jour-là des Coques Rouges, elle s'énerve, elle dit « Mais c'est pas du football, dans ce cas j'aurais encore préféré ne pas jouer ou perdre 15-0 plutôt que de faire un match comme ça. » Alors les filles des Coques Rouges, elles le font pas de gaieté de cœur, se mettre au début contre leur camp, mais par l'absurde, elle tente de faire réagir les autorités.
Excusez-moi, vous m'avez préparé une relance, mais j'ai une autre question qui me vient. Pourquoi elle ne dépose pas tout simplement un recours ou elle décide de ne pas payer l'amende tout simplement?
Alors, justement, elles ont tout tenté. Elles ont demandé une dérogation de ce règlement. Elles ont aussi demandé de payer les amendes plus tard, mais refus des autorités au nom de l'équité sportive, parce que tout le monde est logé à la même enseigne. Cette règle, elle est valable pour tout le monde. Et surtout pour éviter de créer un précédent. Mais ce qu'elles dénoncent par leur action, c'est le frein que constitue ce point de règlement pour le développement du foot chez les filles.
Mais est-ce que c'est la même règle pour les hommes?
C'est exactement ce que j'allais dire. Le règlement est le même pour les garçons, mais il ne pose pas de problème parce que les effectifs sont beaucoup plus stables et surtout beaucoup plus fournis.
Là, le foot féminin est encore naissant, il faut l'encourager.
Chez les garçons, on se retrouve jamais avec toute une équipe ou presque à remplacer à l'intersaison.
Tu avais la même question que Catherine.
On s'entend bien.
Alors,
pour finir dans cette histoire ubuesque, il faut préciser que les instances ne sont pas du tout sur une position inflexible. Il n'y a pas de bras de fer. En gros, tout le monde serait d'accord pour assouplir ce règlement, pour le changer. Mais le chemin est long et la décision doit être prise peut-être très bientôt en plus haut lieu.
Édifiante histoire. Eva, vous m'avez l'air sous le choc.
Ah, mais non, mais ça m'énerve. En fait, c'est.
Oui. Non, ne vous énervez pas.
Non, mais c'est bienvenue dans le monde de la connerie, pas dans le monde de la
survie. J'en étais sûr.
C'est toujours la contrepartie de certains règlements. Et vrai, ils vont évoluer et tout ira bien.
Je suis sûr qu'en écoutant Europe 1, la Fédé va bouger. Je suis sûr. Merci,
c'est là
Jérôme
où vous
ne
connaissez pas la Fédération française de football.
Parce que vous la connaissez bien, vous, Eva.
Bah oui, malheureusement.
Visiblement. Merci, Jérôme Lacroix. Pour finir, si vous deviez former un vœu pour faire avancer la cause du foot féminin.
Des vestiaires mixtes.
Bienvenue, Bilal Hassani, dans cette émission qui, elle non plus, ne rentre dans aucune case. Vous nous présentez aujourd'hui votre livre témoignage singulier chez Plon, un livre où vous écrivez que lorsque vous étiez petit, vous disiez à votre mère, je cite, « Je chanterai pour les aliens et c'est comme ça que je deviendrai la première star intergalactique ». Dans la tête d'Alain Sirou, ça a fait... Budget. Alain... Budget européen. Alain, vous êtes notre consultant scientifique et vous avez décidé de prendre au mot Bilal et de regarder l'offre de musique déjà proposée aux éventuels aliens. Autrement dit, quels sont les compétiteurs au titre de meilleur tube interstellaire ? Tout ça est très sérieux.
Ah bah c'est très sérieux parce que moi j'adore l'idée d'aller chanter pour les extraterrestres. D'abord, on ne sait pas qui c'est. Oui. Il y a peut-être des reptiliens. Puis on ne sait pas s'ils existent. Mathieu me pose la question régulièrement. Oui. Mais je vais vous parler de la seule mission qui a emporté un disque. Alors évidemment, c'est du physique, hein. C'est un petit disque qui fait 30 cm de diamètre.
Mais il faut qu'ils aient un lecteur, un Discman.
Ah oui, mais quelqu'un qui est capable d'aller chercher une sonde dans l'espace, il a sans doute les moyens de décoder aussi. Mais il y a le mode d'emploi. Et en 1977, on a envoyé deux sondes dans l'espace qui s'appellent Voyager 1 et Voyager 2. 77, pour vous resituer l'époque, c'est Carter est à la Maison Blanche, Brejnev est au Kremlin et Giscard à l'Elysée.
D'accord.
Ça vous donne la distance à peu près. Donc c'était il y a 42 ans et des astronomes, en particulier un astronome qui s'appelle Carl Sagan qui s'intéressait comment on communique avec des gens qu'on ne connaît pas. Finalement, comment on parle à l'inconnu, à l'extraterrestre.
Et la musique peut être un bon moyen, c'est vrai que c'est universel.
La musique peut être un bon moyen. Il a mis donc sur ce disque, en fait, des images, des sons. Alors on entend le vent, on entend la pluie, on entend les grenouilles, on entend les dauphins, etc. Et puis il a mis des musiques. Alors, les musiques, il a mis des musiques du monde, mais il a aussi mis des chansons. Et j'ai sélectionné pour vous 5 extraits de ce que des extraterrestres dans 40 000 ans ou plus pourraient entendre comme première chanson venant de la Terre. Écoutez. D'accord. Le premier.
Johnny
Vous avez reconnu, voilà, Johnny Lee Good, Johnny Lee Good de Chuck Berry. Et donc, ça décoiffe quand même pour les étoiles.
Ça décoiffe. Dans 40 000 ans, je ne suis pas sûr que ça décoiffe quoi que ce soit. Mais
voilà, ça aura peut-être un peu vieilli. Deuxième chanson. C'est une péruvienne et c'est une chanson, pour les mariages. C'est quelque chose qui se chante devant le marié au moment où on va se marier. Troisième chanson. Alors là, vous reconnaissez Mexique,
ouais. Exactement.
Mariachi. Lorenzo Barcellata. Bon, je ne connais pas. C'est l'ambiance. Encore une fois, c'est ce moment où on fait la fête au Mexique avec toute cette foule autour des mariachis. Quatrième extrait.
Ah oui,
ah, oui, de l'opéra. Ah,
flûte
enchantée.
Et Mozart en soprano pour la flûte enchantée de Mozart. Oui. Là aussi, dans le ciel, c'est quelque chose qu'on imagine extraordinaire.
C'est magique.
Mozart, Beethoven, etc. Cinquième extrait.
Ah, c'est un autre trip.
Ça, c'est en Asie, ça, non ?
Non, au Tibet.
C'est
non
en
tout.
Australie.
En Australie, aborigène, c'est un chant aborigène.
Exactement, c'est un chant aborigène. Pourquoi les aborigènes ? Parce que les aborigènes sont aussi ceux qui ont un contact direct avec le ciel. Ils racontent des histoires, des légendes dans les constellations. Il y a un lien avec.
Ah, tout ça a été mûrement réfléchi.
Tout ça a été mûrement réfléchi. Et surtout, c'est la diversité qui compte. Mmh. Et moi, ce que j'adore, c'est ce côté, finalement, est-ce que ça ne sera pas les chants des baleines qui seront retenus ? Par les extraterrestres finalement. Essayons un peu
pas
tout. Donc, on n'en sait rien, on sait strictement rien. Et la fiction d'ailleurs a utilisé cette idée qu'on captait à l'extérieur des champs de la Terre et on ne savait pas ce qu'était la Terre. On entend par exemple dans ce disque un train. Et on se dit c'est un train ancien, c'est un vieux train. Non, c'est un train de 77. Et on voit que ça a vieilli déjà. Donc
Donc dans 40 000 ans, ça risque...
Communiquer avec l'extraterrestre, c'est communiquer avec l'ailleurs. C'est communiquer avec quelque chose qu'on ne connaît pas. Et c'est au bout du compte, parler de soi. Le ciel, l'univers est un miroir. Et quand vous chantez dans le ciel, eh bien vous chantez pour nous sur la Terre. Très beau miroir. Miroir, est-ce que je suis toujours le plus beau?
En plus, il avait une chute. Dites-moi, Alain Sirou, est-ce qu'on n'aurait pas oublié, non, c'est 77, c'est parti trop tôt, parce qu'on aurait quand même pu mettre Bohemian Rhapsody de Queen quand même sur cette, qui a été élue plus belle chanson de l'histoire en Angleterre.
Tout à
ça aurait
fait.
Été beau quand même.
Il y a
même.
Plein
alors,
de chansons qu'on peut
oui,
mettre.
Je voulais dire, la première sonde devrait arriver en l'an 40 272, c'est exact.
Oui, ouais.
Dans... près d'une petite étoile de la Grande Ourse. Voilà, on lui souhaite bon voyage pour l'instant.
Mais vous pouvez nous raconter, Bilal, ce qui s'est passé avec votre maman quand vous lui avez dit que vous vouliez être, vous vouliez être le chanteur intergalactique.
J'étais très sérieux et je suis encore très sérieux. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est de prendre un vaisseau spatial et de donner un concert quelque part là-haut. Je sais pas par quel moyen, mais je veux le faire. Lady Gaga devait le faire.
Ah bon ?
Elle l'a pas fait. Ouais, c'était un avion, une sorte d'un vaisseau spatial bizarre, mais qui allait pas très loin.
Non,
mais...
qui sort de l'atmosphère juste.
Exactement.
Et on se retrouve dans l'espace.
Juste de l'atmosphère.
Mais vous pouvez le faire. On va contacter Elon Musk. Elon Musk qui doit avoir un projet là-dessus.
Moi, je veux bien qu'avec SpaceX, avec Elon, on parte
sur la, Lune. Sur la Lune,
sur
ça
la
sera faisable
Lune,
dans le futur, sur une base lunaire.
Sur une base lunaire, faire un concert, un truc en duplex et tout, comme ça, tout le monde peut voir. Mais... Et donc, je disais ça à ma mère quand j'étais petit. Oui, je veux chanter sur Mars. Je veux que les aliens m'écoutent et tout. Donc
sur Mars, ça va être plus difficile.
Très compliqué.
C'est un petit peu chaud. La salle sera très très chaude sur Mars.
16h, 18h sur Europe 1.
L'équipée sauvage.
Et oui, c'est le rendez-vous bonne humeur de l'après-midi sur Europe 1 avec plein d'infos, de quoi enrichir sa culture générale. Mais l'équipée sauvage, c'est aussi une bataille entre nos journalistes pour décrocher le titre de chroniqueur du jour. Et c'est donc au tour d'Anissé Mbida de captiver l'invité de Mathieu Noël, en l'occurrence l'humoriste Baptiste Le Caplain.
Anissé Mbida, le Terminator de Yaoundé, qui commence à susciter pas mal de jalousie chez ses collègues, dont certains n'hésitent pas à dire
« Anissé, il a une chatte
hein. !» C'est ce qui se dit dans les couloirs sur vous. Je vous l'annonce. Je crois qu'Anissé a tout simplement du talent. Et aujourd'hui, on parle de contrôle parental, Anissé.
Oui, et puis je pense que ça va rassurer les parents, parce que enfin, les fabricants de consoles s'intéressent au contrôle parental. Parce que pendant longtemps, le contrôle parental sur les consoles, c'était assez limité. Hein. Grosso modo, c'était est-ce que le jeu était interdit au moins de 18 ans, moins de 6 ans, moins de 3 ans. Éventuellement, on bloquait le jeu en ligne, mais ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin parce qu'on est devenu extrêmement granulaire dans les restrictions.
C'est-à-dire, c'est un mot à placer.
Tu peux choisir que sur Fortnite, par exemple, l'enfant ne peut jouer que le mardi entre 16 et 15 et que le jeudi entre telle heure et telle heure.
Ça, on peut le paramétrer.
On peut le paramétrer de façon extrêmement fine aujourd'hui. On est capable aussi de paramétrer maintenant le niveau de langage qui est utilisé dans le chat. C'est là va très très loin aujourd'hui. Vous savez que la plupart des jeux servent aujourd'hui à communiquer. Mmh. On nous raconte même qu'il y a des terroristes qui s'installent sur ces plateformes-là parce qu'elles ne sont pas surveillées. C'est vrai que ça paraît étrange. On fait du chat sur les consoles depuis des années, mais il n'y a pas de système de modération sur les consoles.
On peut mettre des insultes, par exemple.
Ben oui, on peut mettre des insultes, on peut parler de ce qu'on veut. Et donc ça commence à arriver. Et là où ça va très loin, c'est que chez Microsoft, par exemple, ils ont un système pour filtrer automatiquement les mots-clés un peu spéciaux. On peut mettre un système pour ne pas se faire insulter, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se font insulter sur les jeux. Et là où ils vont extrêmement loin aujourd'hui, c'est qu'ils proposent...
Baptiste Le Caplain, notre invité,
a du vécu
de ce côté-là.
Je suis fait insulter par un enfant de 12 ans. C'est vrai. Red Dead Redemption 2, il m'a buté avec un Colt et il m'a envoyé des insultes. Mais...
Et là où ils vont très loin chez Microsoft, c'est que maintenant ils veulent faire la même chose sur le chat vocal, parce que beaucoup de jeux, notamment les jeux de guerre,
on
les Call of Duty, etc.,
on peut se parler
directement pour les stratégies, hein, pour affiner sa stratégie. Et donc il va pouvoir rajouter des bips automatiques quand on raconte des insultes et quand on dit n'importe quoi, ça va extrêmement loin. Alors là où ce que je trouve intéressant, c'est qu'au-delà du contrôle parental, où les parents peuvent savoir ce que fait l'enfant, quel jeu il joue, à quelle fréquence il joue, c'est que maintenant, on joue aussi sur l'addiction, parce que les PlayStation et les Xbox, on dit souvent, ce n'était pas des consoles d'enfants. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de contrôle parental, parce que beaucoup d'adultes jouent à ces jeux. Mais on s'est rendu compte sur nos téléphones portables qu'il y avait le phénomène de l'addiction. Aujourd'hui, vous avez un téléphone, il vous donne un rapport toutes les semaines en disant, dis donc, t'as vu le temps que t'as passé sur Snapchat, t'as vu le temps que t'as passé sur Instagram. Eh bien, ce même type de système... arrive aujourd'hui sur les consoles de jeux parce que ça permet de savoir combien de temps on passe. Les plus anciens ou les rétro-gamers se souviennent peut-être que les Pong, les Pac-Man, il y avait 3 vies. Une fois qu'on avait 3 vies, on était mort. Mmh. C'est quelque chose qui a disparu dans les jeux. Aujourd'hui, on vit, enfin, on meurt plus dans les jeux vidéo. On s'arrête et on revient exactement où on est mort. Et donc, on joue, on peut jouer pendant des heures sans s'en rendre compte. On peut commencer un jeu et rester des heures et des heures et des heures sans s'arrêter. Donc, c'est pas mal d'avoir ces petits systèmes qui permettent de savoir, tiens, j'ai passé au moins 15 heures aujourd'hui sur le jeu, je m'en étais même pas rendu compte. C'est pas que pour les parents, c'est aussi pour les adultes, pour pouvoir se jauger, se contrôler.
Une question naïve, mais si notre enfant est plus fort que nous en informatique, genre s'il sait déjouer le contrôle parental, ça doit être possible. Enfin, je sais pas, moi je suis une bille, donc si je mets un contrôle parental, lui j'imagine qu'il peut...
C'est là où ils sont allés assez loin aujourd'hui. Maintenant, il y a des systèmes qui sont très bien fichus. Ça veut dire que ça fonctionne avec le téléphone du parent. Mmh. C'est-à-dire que les systèmes qui étaient difficiles, faciles à pirater, c'est ceux qui étaient sur la console elle-même. Donc on finissait par trouver le mot de passe des parents. Maintenant, c'est sur le téléphone portable. Et donc, on reçoit toutes les informations. Tiens, votre enfant s'est trompé dans le code. Tiens, votre enfant a dépassé de 20 minutes le temps qui lui était autorisé. Et donc, on peut choisir soit d'en discuter avec lui de vive voix après, soit tu éteins la console à distance. Automatiquement. Donc, c'est devenu beaucoup plus sioux qu'à une certaine époque.
Baptiste Le Caplain, heureusement que votre maman n'a pas cette fonctionnalité parce qu'elle pourrait vous arrêter la console souvent. J'ai l'impression que vous jouez souvent aux jeux vidéo.
J'ai beaucoup joué aux jeux vidéo dans ma jeunesse et je continue de jouer aux jeux vidéo. Ouais.
Combien d'heures par semaine ?
Non, quand je suis en période d'écriture, je me restreins énormément. Voilà.
C'est-à-dire
Non, mais j'évite de jouer quand même, non, parce qu'après ça déborde tard et tout. Mais ma compagne m'a dit l'autre fois, tu peux arrêter de jouer devant les filles qui regardent. J'avais mes deux filles qui disaient, qu'est-ce que tu dois faire, papa ? Je dis, là, tu vois, je joue à The Last of Us pour la 8e fois, qui est le meilleur jeu de la planète Terre. Et non, j'essaye d'éviter de jouer devant mes enfants, évidemment. Mais ma mère ne m'a jamais restreint à quoi que ce soit. Non, elle m'a laissé faire. Bon, qui m'a pas avantagé sur mon année de 5e, par exemple. Mais en vrai, elle a jamais été chiante là-dessus, ma mère.
Là où c'est important, c'est que pendant longtemps, ces contrôles parentaux étaient extrêmement compliqués à mettre en œuvre. Maintenant qu'il y a la petite application sur son téléphone et surtout qu'il y a ces petits rapports journaliers ou bien hebdomadaires ou même mensuels, ça incite aussi à la discussion avec son enfant. Tiens, tu joues beaucoup à GTA, c'est étonnant, tu n'as que 6 ans. GTA, c'est un jeu qui interdit au moins 18 ans.
Ah oui, c'est la voiture qui couine.
Sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
2 heures de bonne humeur chaque jour sur Europe 1 avec Mathieu Noël, Eva Rock, nos chroniqueurs en compétition et les invités de Mathieu Noël. On va retrouver maintenant Vincent Delerme. C'était à l'occasion de l'émission en public, comme chaque vendredi. Vincent Delerme de retour avec un film qu'il a réalisé lui-même et avec un nouvel album.
Vincent Delerme est avec nous. Comment cela va-t-il se passer entre nous, Vincent ? Aussi bien qu'avec Jeanne Chéral, une de vos amies, passée nous voir il y a quelques semaines. Ça va être difficile tant la tension érotique avait été immédiate et palpable.
Ah, mais ça me fait tellement plaisir que vous...
Je sais pas, mais c'est... Enfin...
Deux étrangers se rencontrent.
Alors, Vincent Delerme. Non, des beaux souvenirs. Hors antenne, vous me donnerez le 06 de Jeanne Chéral que je puisse la remercier. Mais cet après-midi, on parle de votre nouvel album Panorama. Ce 7e album est entre autres une déclaration d'amour au 7e art. On y croise évidemment Agnès Varda, François Truffaut, à qui vous aviez consacré votre mémoire de maîtrise en lettres, dont on entend la voix dans le titre Panorama. Vous êtes nostalgique d'un cinéma d'antan ?
Oh non, pas du tout. J'adore Truffaut, mais par contre, je vais pas m'empêcher de l'aimer parce qu'il est plus là ou parce qu'il date d'une époque. Mais non, en plus, cette chanson dans laquelle il intervient, on a utilisé pour le reste beaucoup des voix qui sont justement présentes dans le film que j'ai fait. Et donc ça, c'était hyper agréable pour moi parce que j'aime bien effectivement les voix de cinéma, aller piocher des choses de ce côté-là et du coup, là, de pouvoir aller piocher dans mon film. C'était chouette d'avoir écrit une chanson comme ça, mais effectivement, la chanson est rythmée par une phrase de Truffaut qui disait que les films sont des trains dans la nuit, qui avait cette idée dans les films qu'il n'y a pas d'embouteillage, qu'il n'y a pas de temps mort et qui sont un peu comme une amélioration de la vie, ce qui est le cas des chansons aussi. Quand on fait des chansons, on essaye de reproduire la vie, mais un peu mieux, exactement.
Le titre du film, c'est « Je ne sais pas si c'est tout le monde ». Étrange titre de film, poétique. Bon, comment ça vous est venu ?
Bah, c'est,
vous êtes réveillé une nuit, vous êtes dit c'est ça le titre.
Non, je trouvais que c'était le sujet, c'était de se dire moi je ressens les choses comme ça, mais est-ce que vous ça vous fait le même effet ? Donc c'est quelque chose qui c'est pareil, ça c'est aussi un truc qui est la grosse problématique quand t'écris des chansons, parce que tu te dis toujours je vais taper dans une zone assez intime dont on pourrait se dire bon a priori il n'y a que moi qui ressens ça, ça n'a pas d'intérêt. Et t'espères que les gens en face vont te dire « Ah mais attends, c'est drôle, parce que justement, moi j'ai ressenti pareil. »
Eva Rock ?
Au départ, le film devait être une fiction, c'est ça Vincent Delerme ?
Oui, enfin en tout cas, j'avais essayé de faire ça sérieusement, avec une vraie équipe de cinéma, avec un vrai scénario. Et puis, ça marchait pas trop, parce que justement, je voulais obtenir des témoignages justement assez intimes et assez touchants. Donc, d'avoir tout écrit, ça fonctionnait pas. Donc on a mélangé des choses écrites au fur et à mesure avec des vrais témoignages et ça a donné un peu plus de chair.
Et alors comment vous le définiriez si vous deviez en faire le pitch comme on dit à chaque fois?
Justement, bon après je suis capable de le faire, mais en même temps c'est assez étonnant parce que dès qu'on est un peu dans un format différent, finalement je crois pas qu'il y ait nécessité à vouloir tout pitcher tout le temps en trois mots. C'est un peu, on s'est habitué à ça parce que tout va très vite, mais dans l'absolu, là, le point de départ, c'était de dire qu'est-ce qui nous fait de l'effet, qu'est-ce qui compte dans nos vies, et qu'est-ce qu'on fait de tout ça, qu'est-ce qu'on fait de nos émotions, en passant par d'autres gens que moi pour dire ça, c'est-à-dire une galerie de personnages avec des gens qui sont identifiés, comme Souchon, Vincent De Dienne, Jean Rochefort, et puis des gens qui sont des anonymes, en fait, des gens qui faisaient partie de mon entourage qui est comme ça, avec des gens connus et pas connus.
Les attentats de 2015, vous dites qu'ils ont modifié, ils ont changé la donne pour ce film. Vous étiez parti sur une piste, vous êtes interrompu au moment des attentats.
Ils ont changé la donne pour moi parce qu'effectivement, on avait commencé à faire ce film et puis là, en fait, j'ai eu assez envie de remonter très vite sur scène après, comme beaucoup de gens en fait qui font de la scène après les attentats. Et donc le film a été mis entre parenthèses. J'ai fait un album à ce moment-là qui s'appelait À présent, en disant à tout le monde, de toute façon, il n'y a pas vraiment d'urgence. Je suis pas hyper attendu comme. Comme mec qui fait des films, donc il y avait pas de non, mais c'est vrai, c'était un truc en plus, donc ça permettait de prendre le temps.
En revanche, vous êtes hyper attendu comme mec qui fait de la scène, et ça, il faut le dire pour les gens qui connaissent pas Vincent Delerme, mais qui ont une image un peu genre bobo parisien de Vincent Delerme, quelqu'un de timide qu'on peut imaginer comme ça. C'est une bête de scène, Vincent Delerme. Il y a toujours une mise en scène dans les spectacles, des surprises.
Et, c'est des spectacles à part entière.
C'est bizarre ce décalage entre votre apparente timidité, blagues, votre réserve, et le show qui est un de vos concerts à chaque fois.
C'est vrai. Quand j'ai commencé au début, il y a un moment, je me dis ah, c'est quand même bizarre que les gens aient cette image-là. Oui. Et puis maintenant, j'aime bien parce qu'en fait, les gens qui voient les spectacles, c'est super parce qu'il y a plein de gens qui suivent, qui viennent. Et c'est comme une sorte de petite fête à laquelle tout le monde est convié. Et en même temps, dans la vie, par ailleurs, ça fait que les gens me laissent très peinard parce qu'ils disent voilà, ce mec-là, il n'a pas l'air très marrant. Donc ça fait une double vie qui est géniale.
C'est
une
pratique.
Vie très normale d'un côté avec très peu de selfies pour rien. Par contre, non, c'est-à-dire que quand les gens viennent me parler, c'est toujours
pour dire des choses intéressantes.
Pour dire en tout cas qu'ils aiment bien une chanson, qu'ils ont vu un spectacle ou que. Mais c'est jamais. En fait, je ne sais plus comment vous appelez, mais je voudrais faire une photo. Oui, ça, c'est sûr.
Il va y avoir quoi comme surprise dans ce spectacle qui nous attend? Parce qu'il va y avoir la tournée dont on parlait.
Il va y avoir
un écran de cinéma, c'est ça?
Oui, ça, c'est une grosse surprise.
Ça, c'est une grosse surprise énorme, mais je suis sûr qu'il va y avoir d'autres surprises.
Ah, bah oui, en fait, à chaque fois, on essaye que. Évidemment, si j'en parle, ce ne sera pas une surprise, mais on essaye quand même que. À chaque fois, voilà, de faire des choses en plus des chansons. Et qui se passe des trucs en plus des chansons, je peux pas dire autrement, parce que c'est vraiment ça l'idée, c'est que le spectacle, tu vas quand même le jouer longtemps, donc t'as envie que ce soit excitant, et puis que les gens qui ont vu toutes les tournées aussi aient l'impression de pas revoir la même chose.
Au-delà du show, vous êtes aussi très drôle sur scène.
Vous
êtes hyper drôle. C'est pas à vous de le dire, mais oui. Et effectivement, vous êtes drôle. Est-ce que c'est écrit ça avant? C'est écrit façon sketch ou c'est de l'impro?
Non, souvent c'est assez écrit, parce que ce qui a fait que j'ai voulu toujours faire des spectacles qui étaient où il y avait d'autres choses que les titres eux-mêmes, c'était le fait de venir du théâtre et d'avoir envie de ça. Et comme quand il y a beaucoup d'envois vidéo, de choses qui se répondent, comme dans ce spectacle, où on a généré plein de moments comme ça, où ça se répond entre l'écran qui est derrière moi et ce que je fais sur scène, du coup, il faut que ce soit assez calé. Donc, tu peux pas trop te permettre, même vis-à-vis des équipes techniques, de dire tiens, ce soir, je vais partir sur un truc, puis vous enverrez la vidéo quand vous voulez. Donc, c'est quand même un minimum. Après, du fait que c'est assez précis, ça fait que s'il se passe un truc qui est imprévu, tu peux rebondir facilement.
Et Varrock rit déjà, que là, pour l'instant, on n'est pas dans le
non,
spectacle.
Non, mais c'est un peu comme vous et vos sons, quoi.
C'est un peu comme moi et mes sons.
Ouais, ah, bah oui,
je trouve que c'est deux projets radicalement différents.
Ne mélangeons pas tout, Eva Rock.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Avec Mathieu Noël, son acolyte Eva Rock et nos journalistes engagés chaque après-midi dans une compétition, nous offrons leur meilleur sujet. C'est Axel de Tarlet qui entre en piste à présent, sous l'œil bienveillant de l'humoriste Baptiste Le Caplat.
Axel de Tarlet, cet après-midi, vous ne laisserez rien ni personne se mettre entre vous et la victoire. Vous nous parlez des vacances de la Toussaint. Et comme ça a déjà commencé, ça tombe vraiment bien.
Voilà, exactement. Parce que donc, c'est une enquête Opinion Way pour Mondial Assistance. Il y a 22% des Français qui partent en vacances à la Toussaint. C'est 2 points de plus qu'il y a 2 ans. Alors, il y a 2 types de vacances. Je ne sais pas d'ailleurs quel type de vacances vous êtes. Il y a ceux qui partent en voyage découverte, qui vont découvrir et qui font des locations. Puis il y a ceux qui tapent l'incruste chez des amis, ou enfin c'est les... Non, mais ce sont les vacances.
J'en connais aussi.
Les vacances en famille ou entre amis. Alors ça coûte beaucoup moins cher parce qu'on est chez des gens en famille, chez ses parents. Bon, bref.
Et qu'on participe pas au
Disney, participe pas au frais, on fait pas la vaisselle.
Ça, c'est, voilà. c'est le bon plan que vous donnez à nos éditeurs, c'est
en
ça.
En revanche, les vacances plus intéressantes, c'est de partir, de faire une réservation, de prendre un billet, etc. Et donc, et alors le budget de ces vacances, c'est 716 euros. Pourquoi j'ai décidé de vous parler de ces vacances de la Toussaint ? Parce que les vacances, c'est beaucoup plus important qu'il n'y paraît. C'est ce qu'a montré une enquête IFOP pour Jean Jaurès, qui a montré que dans un univers où bah, y a moins d'idéaux, il y a moins de politique, il y a moins de religion, etc., la consommation, c'est ce qui vous marque. Et c'est Jérôme Fourquet qui dit « Le renoncement aux vacances est un marqueur fort de déclassement. » Quand on ne peut plus se payer de vacances, bah, c'est qu'on a échoué. Quand on ne peut plus aller au cinéma...
On part en vacances pas tellement parce qu'on aime aller en vacances, mais parce qu'on montre aux autres qu'on a le moyen d'aller
en
vacances.
Le voisin part en vacances. C'est moi, je pars pas. Vous voyez, c'est terrible à vivre. Et pourquoi est-ce qu'on en parle ? C'est parce que donc, cette enquête pour la Fondation Jean Jaurès montrait qu'il y avait deux tiers des Français.
Je te rappelle parce qu'il doit avoir des billes dans la Fondation Jean Jaurès.
Non, mais c'est parce que ça fait sérieux, la Fondation Jean Jaurès.
Ouais, ouais, c'est vrai. Moi, je suis impressionné. Pour moi, c'est une ligne de métro sur la ligne 5, mais c'est une station de métro. Je suis putain, c'est un sacré magazine. Voilà.
Donc, cette enquête pour la. Là, je dois reprendre un air un peu plus. Cette enquête pour la Fondation Jean Jaurès montre qu'au cours des 5 dernières années, vous avez deux tiers des Français qui disent avoir renoncer à des vacances pour des questions financières. Et on va même faire un peu plus de sociologie. Parmi ceux qui se disent gilets jaunes, il y en a 65% qui disent bah oui, qui disent souvent je ne peux pas m'offrir les vacances parce que j'ai pas l'argent, alors que ceux qui se disent non gilets jaunes, il n'y a que 45%. Et là, je voudrais passer un coup de gueule contre les campings.
Parce les campings.
Ouais, oui, ça c'est inattendu. Parce que quand j'étais jeune, moi...
Attention, il prépare Camping 4. Bah, hein, gaffe, nickel cinéma.
Quand la phrase, d'Axel commence par « quand j'étais jeune », ça peut vraiment nous emmener très loin. Hein. C'est-à-dire, Axel. Oui.
Mais non, mais autrefois, on pouvait partir...
À l'époque, vous aviez un groupe de rock qui s'appelait Venin.
On pouvait partir avec sa petite voiture, la catégorie 5 qui pollue, et aller dans un camping pour pas cher. Ouais. En 2001, les deux tiers des campings en France étaient deux étoiles. Maintenant, ils ne représentent plus que 20% les deux étoiles. En fait, si vous voulez, les campings, d'ailleurs, on ne dit plus camping, on dit hôtellerie de plein air. Et on vous loue un bungalow à 800 euros. Ouais. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de vacances low cost. Il y a eu cette montée en gamme un peu arrogante des professionnels du tourisme qui fait qu'aujourd'hui, partir en vacances, c'est forcément cher. C'est forcément l'avion, c'est forcément une location, etc. Et ce qui fait que ça génère de la frustration, puisque comme on l'a dit, quand on ne peut pas partir en vacances,
mais c'est étrange parce qu'avec la loi de l'offre et la demande, il devrait y avoir une offre pour de camping pas cher.
Il vaut mieux louer un emplacement à 800 euros plutôt que 4 emplacements à 200 euros. Voilà.
C'est un peu le mot de la fin, quoi.
C'est là où je me dis que je vais pas gagner.
J'en doute.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage.
Et oui, vous écoutez Mathieu Noël jusqu'à 18h, entouré d'Eva Rock, d'un invité. Ici, l'ancien candidat pour la France au concours de l'Eurovision, c'était en mai dernier. Et il sort un livre dans lequel il raconte son parcours. Singulier, c'est son titre. Et je parle bien sûr de Bilal Hassani. D'ailleurs, sachez qu'un album, son album Kingdom, est réédité ce mois-ci.
C'est donc le jeune chanteur Bilal Hassani qui nous accompagne cet après-midi pour la sortie de son livre Singulier chez Plon. Si vous possédez une télévision ou un ordinateur relié au Wi-Fi, vous connaissez fatalement ce jeune homme au look androgyne, sa crinière blonde platine sur scène. Vous connaissez aussi ce titre. Laisse-moi m'envoler. Mais si on veut vous connaître vraiment, Bilal Hassani, il faut remonter à ça. Ce choc, vous avez 5 ans, chez vos grands-parents au Maroc, vous découvrez à la télévision le clip de Thriller de Michael Jackson.
Exactement.
Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ?
Je suis chez mes grands-parents et c'est mon père qui me montre le clip, donc à moi, mes cousins, mon grand frère. Et on regarde le clip de Thriller tous ensemble. La réaction attendue de moi, c'est le... mon père voulait me faire peur, il s'est dit super et tout, c'est le moment où on va faire flipper tous les petits, ils vont aller se coucher et on va faire des petits cauchemars. Et donc tous mes cousins sont en train de pleurer vraiment parce qu'ils ont très très peur et moi je suis le seul devant l'écran d'ordinateur et je faisais oh, waouh. Et à ce moment-là en fait j'étais concentré sur donc ce que Michael faisait en termes genre de chorégraphie et j'avais envie d'apprendre la danse en fait qu'il faisait. tous les jours, je re-regardais le clip et ça, je m'en foutais que ce soit un loup-garou, il pouvait faire le zombie, tout ce qu'il veut. Moi, j'étais là, je voulais savoir comment il faisait cette Corée. Ouais.
On va revenir sur ce livre qui est aussi l'histoire d'un combat différent. Vous l'avez toujours été et surtout, on vous l'a fait sentir, surtout tellement la différence. Vous dites pas assez garçon, trop fille, on me le dit, on me le fait sentir depuis que je suis né. Ce look qu'on vous connaît, que vous arborez sur scène, ça n'a rien de marketing, c'est vous en fait, depuis toujours.
Ah, c'est complètement moi, ouais. En fait, je mets des serviettes sur ma tête depuis que je suis tout petit, j'aime trop l'idée d'avoir des cheveux longs. Et donc, quand j'ai découvert l'option perruque, je me suis dit, c'est super. Et ça me permet d'avoir ce mouvement en fait, capillaire trop cool que j'admire chez mes idoles comme Beyoncé et tout, et d'avoir moi aussi.
Quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant dans le récit, c'est que c'est une leçon magistrale de la connerie humaine, je m'explique. Si on ne vous accepte pas, c'est finalement pas parce que vous êtes gay, pas parce que vous êtes efféminé, pas parce que vous êtes transgenre aux yeux de certains, c'est parce que précisément vous ne rentrez dans aucune de ces catégories. Vous êtes la preuve vivante que les hommes ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas juste en fait.
Oui, ils ont besoin de me rentrer dans quelque chose, dans une des cases, et c'est quelque chose d'assez frustrant, même au début, quand j'ai été exposé au tout début avec l'Eurovision, c'était très compliqué pour eux de mettre un titre, un gros titre avec Bilal Hassani, et donc c'est un coup androgyne, des fois c'est homosexuel, des fois c'était une personne trans alors que pas du tout et tout. Donc il y a eu plein de choses et moi à chaque fois que je disais je suis un garçon, oui j'aime les garçons mais c'est pas non plus genre mon actu hein, donc, et je porte des perruques, c'est perturbant ouais.
Et vous avez ce terme, je suis incasable, je suis Rubik's Cubesque.
Exactement.
J'aime beaucoup ce terme. C'est quoi votre rêve aujourd'hui, maintenant que vous avez fait l'Eurovision, l'Olympia, tout ça dans un espace temporel très réduit, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est peut-être de durer, c'est ça le plus dur dans ce métier aujourd'hui avec l'offre musicale.
Je suis pas en train de réfléchir à la durée, je suis en train de réfléchir à trouver mon équilibre dans ce monde qui est un petit peu ça m'a un petit peu tapé dessus, ça m'est tombé dessus très vite malgré le fait que je prépare ça depuis des années et des années et des années. Quand ça arrive de manière aussi intense très rapidement, c'est on a besoin de s'ajuster, de s'adapter, donc c'était un petit peu compliqué pour moi le tourbillon, et donc je veux m'adapter, me sentir bien dans mon élément, et je veux surtout continuer à m'amuser, à faire ce que je fais. Moi, je fais pas uniquement de la musique pour avoir de la reconnaissance et pour que genre trois personnes disent « Ah, mais si, lui, il est connu !» Le but, c'est que je m'éclate quand je crée de la musique, et s'il y en a 3 ou 3000 ou 30 000 ou 300 000 qui m'écoutent, c'est pas le chiffre qui m'importe, c'est la connexion que je peux avoir avec ces personnes-là qui comptent vraiment.
Il y a quelques semaines, on a découvert un clip extrêmement touchant de la chanson « Je danse encore » dédiée, oui, à votre maman Amina. Elle a été un soutien, votre maman, mais vraiment un soutien sans faille depuis vos débuts. C'est elle qui vous a compris dès le départ. Elle a toujours été un soutien pour vous.
Elle a toujours été derrière moi. Elle m'a surtout tout le temps suivi dans mes folles aventures et mes projets un peu fous, sans à aucun moment me dire de baisser les bras, alors qu'il y a plein de fois où quand même, moi j'ai commencé vraiment à essayer de rentrer dans ce monde de la musique, à enregistrer des chansons, etc. très jeune. J'ai commencé avec une formation très classique au conservatoire, etc. Mais à partir de mes 11-12 ans, j'ai commencé à toquer aux portes des maisons de disques avec ma mère, et donc maman s'est battue pour moi. Elle s'était inscrite à une salle de sport juste en face d'une grosse maison de disques, et elle laissait des démos tous les jours dans la boîte aux lettres et tout. Et elle s'est vraiment battue pour que ça fonctionne, parce qu'elle voyait à quel point c'était quelque chose qui comptait pour moi, et nous on n'avait pas peut-être pas les moyens d'enregistrer, de louer juste un studio d'enregistrement ou des trucs comme ça, et donc maintenant quand elle voit tout ce qu'on peut faire, elle est très contente.
À vous entendre, il n'y avait pas d'alternative dans votre vie, c'était la musique ou rien, il n'y avait pas une autre voie, il n'y avait pas un autre métier, une autre...
J'avais pas de plan B, non.
Il n'y avait pas de plan B.
Non, il n'y avait aucun plan B, j'ai toujours voulu faire que ça, et donc quand c'est ce que j'écrivais dans les petits formulaires qu'on fait à la rentrée des classes et tout, j'écrivais chanteur, 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 et c'est tout. et en fait, c'est au moment où on réalise son plan A qu'on découvre son plan B. Et donc, depuis que j'ai donc sorti mon premier album, etc., j'ai trouvé le truc que je pourrais faire sur le côté et tout.
Mais c'est quoi, c'est secret?
Je vais pas le dire. Non, je peux en parler. Mais c'est toujours en rapport avec la musique, mais j'aimerais bien reprendre les études. Et étudier à la Berklee School of Music à Boston.
Prestigieuse école musicale.
C'est très cher.
Oui.
Donc il faut que je vende beaucoup de disques avant de pouvoir faire cette école.
Et ce sera
mon plan B. Voilà.
En juin dernier, vous avez été élue personnalité de l'année LGBTI, lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, intersexe, lors de la cérémonie des Outdoors. Néanmoins, vous restez complètement lucide là-dessus. Il y a pas mal de médias qui vous reçoivent en se disant c'est bon, on accueille un homo qui chante avec une perruque, on a fait notre boulot, tout est réglé avec le problème de l'homophobie. Vous dites ça, c'est assez malin. Vous savez bien qu'il faudra beaucoup plus pour changer les mentalités.
C'est vrai, à partir du moment où on est obligé d'avoir une cérémonie qui récompense exclusivement les personnes de la communauté LGBTQI, ça rend la chose un petit peu niche directement et ça nous met encore dans cette case un peu genre extraterrestrielle, genre ils sont bizarres dans leur coin. Et aussi, moi j'essaye toujours de faire très attention à ne pas rentrer dans le jeu trop du... médiatique du regardez, on l'a lui, il est très bien, tout va bien, la tolérance est à son comble, c'est un homosexuel avec une perruque qui a représenté la France à l'Eurovision, tout va bien dans le monde, c'est faux, et il y a beaucoup de choses qui, enfin, on devrait encore pouvoir évoluer beaucoup dans, j'espère, prochainement.
Oui.
C'est important.
Vous estimez que vous vous êtes fait virer de votre collège à cause de votre homosexualité?
Oui, exactement.
Le prétexte officiel, c'était que vous étiez trop bavard, mais pour vous, c'est pas ça.
Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une relation sexuelle avec un garçon qui était dans la même classe que moi. Ça s'est répandu comme une petite rumeur dans l'établissement. Mais c'était une rumeur, donc rien ne pouvait prouver que ça s'était passé ou non. Et donc, on avait joué un petit peu sur le... En gros, lui, il avait été très contrarié quand il avait appris que ça se savait. Donc, il m'avait dit, t'en parles pas, et tout. Tu dis que c'est faux, et tout. Mais malgré tout, les profs, et tout, ont commencé à en entendre parler. Et donc, c'était devenu bizarre, mes relations avec mes professeurs, tout simplement. C'était très tendu, en fait. Et un jour, on est venu me chercher en cours, et on m'a dit, t'as conseil de discipline après-demain? J'ai fait, hein, pourquoi? J'avais 17 de moyenne, j'étais un élève assez modèle, donc je comprenais pas ce qui se passait. Et on m'a renvoyé pour c'était quoi? J'étais trop distrait et je déconcentrais mes camarades de classe.
Sexuellement.
Avec ma présence.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Oui, Bilal Hassani, votre pouce accélère, des frissons d'angoisse parcourent votre corps et c'est normal, vous allez affronter Eva Rock dans un combat singulier et intellectuel. Or, quand on connaît la puissance neuronale d'Eva, pour rappel...
Et 22 mois, ça ferait...
Arrêtez avec
3
ça
ans.
300, il y a 3 balisés. Hein. Alors chaque jour...
Je suis nul en chiffres.
Ah oui, non, mais, oui, mais comme ça, vous êtes deux.
Bah voilà.
À chaque jour, un thème en rapport avec l'invité, pour vous Bilal, qui justement agaçait ceux qui ont du mal à comprendre qu'on puisse être ni homme, ni femme, ni queer et réciproquement, on a décidé de vous faire un quiz sur le thème homme-femme. Vous êtes opposé à une femme qui aime les hommes, qui aime les femmes. Eva Rock, une bonne réponse, un point. Arithmétiquement, vous suivez Eva?
Oui, là ça va.
Très bien. Alors c'est parti. On commence avec vous, Bilal Hassani. Le record du monde de lancer de disques est plus important dans la catégorie femme que homme. Vrai ou faux?
Je vais dire vrai parce que j'aime les femmes et c'est toujours les meilleures.
Et vous avez raison, le record masculin est de 74 mètres, le record féminin de 76 mètres. Alors même si le disque pour les femmes fait 1 kg
et, voilà, moins long,
et 2 kg pour les hommes, c'est la seule discipline où c'est le cas, où les femmes sont plus fortes que les hommes sur le même exercice. Eva Rock, les ouragans qui ont un prénom féminin sont en moyenne 3 fois plus meurtriers que ceux portant un prénom masculin. Vrai ou faux?
Non, c'est faux parce que... Non, c'est faux.
J'aime quand vous répondez vite, quand vous avez comme ça une certitude.
Non, c'est faux.
Oui, c'est faux. Eh bien, c'est vrai. Eh oui, et il y a une explication, Eva. Il y a une explication. Non, non, ne soyez jamais sûr de vous. Les populations se méfient moins quand ce sont des prénoms féminins en associant la féminité à la douceur. Résultat, de 1950 à 2012, on compte en moyenne 15 morts pour un ouragan au prénom d'homme, 41 pour ceux au prénom de femme. Et voilà. Bam,
il va y en avoir un de mort supplémentaire, vous allez voir.
Mais calmez-vous. Ce n'est qu'un jeu, Eva. Ce n'est qu'un jeu. Elle me déteste de plus en plus viscéralement, j'ai l'impression. Attention, vous jouez tous les deux, les amis. C'est une maladie très rare et elle touche certaines femmes. Quel est le symptôme? 3 propositions. 1. Une surdité qui fait que les femmes ne peuvent plus entendre les hommes. 2. Une allergie épidermique qui ne concerne que les femmes avec les poils du torse des hommes. Elle ne supporte pas ça. Ou 3, une défaillance du cerveau qui fait que les femmes arrivent à faire un créneau.
Ah,
oh, qui m'a mis cette question?
Ah, c'est moche.
Alors là, je me désolidarise de la personne qui a écrit ce quiz. D'après vous,
Vous diriez quoi, vous, Bilal?
Moi, je dirais deux. Le truc
d'allergie, des poils. Une allergie aux
et
poils de
torse. Et le premier, c'était
une surdité qui fait que les femmes ne peuvent plus entendre les hommes.
J'aimerais trop que ça soit ça. Je vais dire la 1.
Vous dites la 1 au hasard? Parfois, le hasard vous porte chance, Eva. Effectivement, c'est la 1. C'est une surdité en pente inversée, à savoir une perte auditive sur les fréquences les plus graves. On estime à 466 millions le nombre de femmes qui ne peuvent pas entendre les hommes.
Vous comprenez
mieux. Béni soit-elle. Eva Rock, quand il y a des soldes, elles sont exceptionnelles.
Oui.
E2LES ou exceptionnel ELS.
Ah merde. Enfin merde, non, c'est pas ce que je voulais dire, mais.
Restez poli.
Je dirais féminin, donc 2LES. Mais j'ai un gros doute.
C'est un doute
c'est
justifié puisque c'est faux. Exceptionnel ELS, le mot est masculin, souvent utilisé au pluriel. Une solde, c'est quoi? C'est le salaire du soldat.
Oui,
ça n'a rien
exact,
à voir. Bilal Hassani, attention, cette question
va vous
départager. Oh. Le poisson, la murène à longue queue, est femelle de 5 à 12 ans, puis devient mâle jusqu'à la fin de sa vie à 40 ans.
Vrai oui, c'est vrai.
C'est vrai, il le sait. Et non, c'est faux, c'était un piège. Ah, c'est dégueulasse, c'est honteux. Oh. Faux, c'est vrai pour le mérou. Il est capable de se reproduire vers 3-5 ans.
Juste,
il devient mâle généralement vers 9-12 ans.
Non, elle est pourrie, votre question.
Attention, réclamation déposée. On donne le point quand même à Bilal qui remporte
c'est
le
génial,
quiz.
Quand t'es invité, mais tu oui, gagnes quand même.
Ouais, c'est toujours comme ça, c'est bien fait cette émission.
16h-18h sur Europe 1, l'équipé sauvage.
Ce sont les dernières minutes de l'équipé sauvage. On retrouve Mathieu Noël, Eva Rock et à présent Nicolas Carreau venu nous présenter son sujet dans le cadre de la compétition. C'était lors de l'émission en public en présence de Vincent Delerme. De retour avec un nouvel album, Panorama, et un nouveau film qu'il a lui-même réalisé et qui a pour titre Je ne sais pas si c'est tout le monde en salle depuis mercredi.
Vincent Delerme, à vos côtés, un journaliste avec qui je vous demanderai d'être particulièrement indulgent. D'abord, car comme tous les grands littéraires, Nicolas Carreau, notre spécialiste livre, est un être fragile, torturé. Hier, je l'ai croisé au détour d'un couloir, il m'a attrapé le bras, il m'a regardé avec les yeux fiévreux de Raskolnikov dans Crime et Châtiment. J'ai limite cru qu'il avait buté Catherine Ney. Non, il était juste inquiet, il m'a dit, je cite mot pour mot, c'est vrai, « Mathieu, demain je suis avec toi, est-ce que tu crois que le public va m'aimer ?» Oui, oui, mesdames et messieurs, c'est aujourd'hui ça. Toute première fois en public pour Nicolas Carreau.
En fait, je connais intimement Vincent Delerme puisque j'ai visité sa bibliothèque. On ne peut pas faire plus intime. Et on a trouvé beaucoup de choses, du Maigret notamment, et aussi un livre de recettes sur 99 façons de faire l'omelette, dont l'omelette aux nouilles, j'ai appris son existence.
L'omelette aux nouilles, oh, ça m'intéresse. Si c'est bon, ça.
Mais surtout, du Richard Brautigan et du Raymond Carver, deux écrivains américains et deux génies dans deux styles complètement différents d'ailleurs, qu'on oublie souvent en France, et que l'on redécouvre régulièrement. Raymond Carver, d'abord, lui, c'est l'empereur de la nouvelle. Il est mort il y a une trentaine d'années, en 88. La plupart des écrivains contemporains s'en réclament. Ils admirent son sens du récit et sa manière encore de décrire la banalité. En général, on arrive au milieu d'une conversation chez Carver, comme un homme invisible ou un fantôme qui entrerait dans le salon des gens, et on ressort aussi abruptement. Ne vous attendez pas à des fins incroyables, à des twists qui vous font sursauter. Non, avec Carver, on rentre chez les voisins, on écoute, on observe, on rit, on pleure et on s'en va. Sauf dans une petite douceur. Celle-là est terrible. Je vous raconte le début et je vous jure que la fin donne des frissons. Je vous raconte rapidement. Une dame commande un gâteau par téléphone pour l'anniversaire de son fils. Elle demande au pâtissier d'inscrire le nom de son enfant sur le gâteau en relief. Scotty, normal. Le pâtissier du centre commercial dit « Ok, mais attention, hein, on m'a déjà fait le coup de commander et de ne pas venir chercher le gâteau. Et après, je reste avec ça sur les bras. Ok, ok. Ouais, mais dans la journée, Scotty est victime d'un accident de voiture très grave et tombe dans le coma. Pensez bien que ses parents ont autre chose à faire que d'appeler le pâtissier. Mais lui, qui ne voit personne arriver, est furieux. Alors il appelle chez les parents de Scotty et il appelle encore et il appelle encore et il les harcèle. Et bon, je ne peux pas vous raconter la fin, mais là c'est très triste ce que je viens de raconter, mais la fin c'est merveilleux, c'est la plus belle fin de tous les temps du monde. Et c'est dans une nouvelle en plus, ça se lit rapidement.
Alors rappelez-nous le titre de la nouvelle.
Petite douceur.
Petite douceur.
Et Brautigan, c'est l'une des grandes figures de la littérature américaine aussi, des années 60-70 plutôt. Il a connu un grand succès à l'époque, mais c'est aussi un écrivain maudit. Et on le redécouvre depuis quelques années en France avec des nouvelles traductions, notamment avec sa poésie, qui mêle humour, réalité brute, imaginaire, absurde parfois, et la mélancolie, la tristesse aussi, tout ça en même temps, parfois tout ça dans le même poème. Alors, ce ne sont pas des poèmes pour ceux qui pense à la poésie comme des vers en alexandrin et tout ça, c'est de la poésie sans afféterie, des pensées, des histoires, des photos du présent, comme disait Vincent Delerme tout à l'heure, des réflexions poétiques et ou romantiques, comme ce poème qui s'appelle « Baiser fantôme ». Il n'y a pas pire enfer que de se rappeler intensément un baiser qui n'est pas venu. C'est beau, quoi.
C'est beau.
Celui-ci.
C'est
je suis assis dans un café à boire un coca. Une mouche sommeille sur une serviette en papier. Il faut que je la réveille pour essuyer mes lunettes. Il y a une jolie fille que j'ai envie de regarder.
J'adore.
Il parle de sexe aussi. Parfois crûment, parfois très pudiquement. Je vous en lis un. Pudique.
Ah oui.
Enfin, nos corps coïncident. Je parie que tu pensais que ça n'arriverait jamais. Moi non plus. Voilà une agréable surprise. Et il y a juste des photos comme ça, des instantanés. Deux mecs sortent d'une voiture. Ils se plantent là, juste à côté. Ils ne savent pas quoi faire d'autre. Fin du poème. Après, vous imaginez tout ce que vous voulez. C'est ça, la magie de Brontigan. On n'est pas trop habitué à ce genre de poésie chez nous. Il faut se laisser porter par ce style. Le lire comme on regarde une exposition de photos, en fait. Ou comme on écoute une chanson.
Mais est-ce que c'est à lire en français? Ou est-ce que si on a la chance de parler un peu anglais, est-ce que c'est bien traduit?
Ils ont tout retraduit dans un bouquin de 900 pages. Mais parce qu'il y a deux versions. À droite, il y a la version en français. Et à gauche, il y a la version en anglais. Et ça se lit très bien en anglais avec un petit niveau comme le mien, par exemple. Moi, j'y arrive.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage.